Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous une vie saine c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel. À travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement, vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Coucou Isadora, coucou Marie-Lise.
Coucou Marisa, coucou Isadora.
On est hyper contente de t'avoir, on était excitées aujourd'hui.
Oui, trop contente.
De t'avoir avec nous. Alors Marisa, pour le coup, elle ne te connaît pas.
Non. Enfin, que par échange de mails, Marie-Lise Vincent.
C'est ça.
Et par, non, parce qu'elle, elle ne me connaît pas. Mais moi, je la connais parce que j'ai l'impression de connaître, tu sais, parce que je t'ai vue sur Instagram. Tu avais fait un live, c'est comme ça que je t'ai rencontrée, mais on en parlera. T'avais fait un live sur le site de l'Instagram de ta maison d'édition et j'avais eu un coup de cœur pour ce live, j'avais trouvé ce live fabuleux et j'avais eu un coup de cœur pour ta personnalité et j'en avais parlé ensuite, j'avais offert à Isadora et tout ça, mais on en parlera.
C'est vrai que c'est toi. Donc, qui... C'est vrai que c'est toi
d'abord. Oui, c'est moi qui ai découvert.
Ouais. Mmh.
Et, mais pour autant, c'est pas moi qui la connais intimement et personnellement.
Et non, c'est moi qui ai cette chance. Ouais. Il faudrait peut-être un jour le faire aussi pour toi. Donc Marie-Lise, pour que les personnes comprennent qui tu es, pour moi en tout cas, parce qu'après tu te diras toi-même, mais Marie-Lise très court, donc Marisa, elle t'avait rencontrée sur Instagram,
Je l'avais découverte plus que rencontrée, mais on peut dire rencontre, c'est joli.
C'est une belle rencontre, une belle rencontre, parce qu'il est devenu une rencontre.
Oui, mais non, parce qu'il faut parler de la genèse. La genèse, c'est qu'Isadora, l'année dernière, en 2022, Isadora et moi, nous étions perdus. Mais ça, on vous l'a déjà dit dans tous les sens. On était perdus professionnellement, personnellement. Voilà, on était juste perdus. Et Isadora avait pris à la médiathèque un livre sur l'ikigai. Mm-hmm. Parce que je crois que Karine, notre grande sœur, avait dit comme quoi, vous êtes perdus les filles. Moi, il y a quelques années, j'avais fait un ikigai. On dit, ah bon, on ne connaît pas. Et Isadora, comme nous, on est des personnes, dès qu'on nous parle d'un truc, on fonce, il faut en savoir plus. C'est notre personnalité. Du coup, t'avais pris un livre à la médiathèque sur l'ikigai.
Non, même pas.
Même pas.
C'était en détail, c'était sur Kindle.
Ah oui, d'accord, bref, peu importe.
Détail.
Et donc, ça n'a rien à voir avec Marie-Lise, d'ailleurs, ce livre. Mais t'avais beaucoup aimé cette approche.
J'avais adoré cette approche japonaise, que je connaissais, mais pas du tout. Je trouve ça très beau, cette façon d'imaginer une vie plus centrée, avec des choses si simples. Mais j'avais pas mis en place. Moi je suis une bonne élève, mais à côté, je suis une mauvaise élève, parce que j'ai lu le livre. Mais moi, m'amuser à aller faire des ronds, j'avoue. Et puis moi, je ne sais pas parler de moi-même. Et on le verra ensuite avec toi. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le livre, je vois qu'il faut avoir 4 cercles, qu'il faut écrire des trucs dedans. Mais c'est compliqué de le faire pour moi, je trouve, toute seule. En tout cas, pour moi, je trouve ça très compliqué. Donc, j'ai mis de côté et on passe à autre chose.
Et ensuite... J'ai vu ton live sur l'Instagram de Erol.
Et t'as pris ça pour un signe, d'ailleurs.
J'ai pris ça pour un signe. Et du coup, je faisais la cuisine, pour tout vous dire. Et je l'ai écouté. Et j'ai adoré ce live. J'avais dit, Isadora, écoute-le. Je l'avais même partagé, il me semble, sur Instagram.
Oui, je pense.
Il me semble que j'avais partagé sur Instagram, je ne sais plus, bref, en story. Et ensuite, notre anniversaire est tombé. J'ai dit, bim, bam, boum, je vais offrir à Isadora un coaching Ikigai avec Marie-Lise. Parce que je trouvais que c'était toi qui étais plus... perdu dans ton côté professionnel.
Oui.
Moi, j'étais plus dans mon côté couple personnel, etc. Donc, je lui avais offert et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Marie-Lise.
Complètement.
Voilà.
C'est comme ça que ça a commencé avec toi. Mais ça, on en reparlera après. Ça a duré plusieurs mois quand même. Combien de temps
on s'est vu peut-être une ou deux fois par mois. Donc, comme il y a 5-6 séances, Oui, peut-être, ça a duré au moins 3 mois, oui.
Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir passé un long moment avec toi, et je pense que c'est ça aussi qui m'a plu, c'était pas genre un one shot, on s'est vu une fois, tu m'as fait mes cercles, en fait c'est même plus profond que ces cercles en fait. Ah oui.
Bah, disons que le cercle, c'est une base, si tu veux le faire toute seule, etc. C'est d'où toujours l'intérêt d'avoir des personnes, que ce soit des thérapeutes, des coachs, etc., qui t'accompagnent. Parce qu'avoir faire des choses tout seul, c'est bien pour une première approche, mais si tu veux approfondir, c'est compliqué.
Mais juste, est-ce que tu peux nous dire déjà, rapidos, ce que c'est l'ikigai ?
L'ikigai, comme tu l'as dit, c'est un mot japonais, c'est une philosophie japonaise à la base. C'est né sur l'île d'Okinawa au Japon, qui est une petite île sur laquelle on compte le plus de centenaires qui vivent heureux et en bonne santé et épanouis. Et donc, on a cherché à savoir quel était leur secret à ces braves centenaires et on a décliné un certain nombre de règles de vie. Et puis, on a essayé de voir comment on pouvait adapter ces règles de vie pour nous en Occident, comment on pouvait s'inspirer de leur philosophie de vie. Et donc, on l'a schématisé sous la forme de 4 cercles. Depuis tout à l'heure, les gens doivent se demander de quel cercle vous parlez. Ces cercles-là, donc, il y en a 4 qui se rejoignent en leur centre. Le premier cercle, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je travaille, c'est tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui m'enthousiasme. Tout ça, c'est dans le premier cercle. Le deuxième, ce sont toutes mes compétences, qu'elles soient professionnelles ou hors professionnelles, donc tout ce que je sais faire. Et moi, ce qui m'intéresse entre nous, c'est bien sûr tout ce que vous savez faire en dehors de votre travail. Si vous savez très bien faire la cuisine, clairement, ça m'intéresse. Je vais voir comment on peut exploiter ça après. Le troisième cercle, c'est mes valeurs et tout ce que je peux apporter aux autres. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand on connaît bien nos valeurs, on a une espèce de feuille de route. C'est un peu comme un train qui avance sur des rails. Si les rails sont clairement identifiés, on peut y aller, on peut avancer. Si c'est pas clair, on n'avance pas. Si on ne connaît pas nos règles, si on ne connaît pas nos valeurs, c'est pas la peine d'y aller. Et puis, le dernier cercle, c'est mes activités idéales. Alors, pourquoi je n'ai pas appelé, comme d'autres auteurs, ce pourquoi je peux être payée ? Parce que dans l'ikigai, on peut effectivement, et 90% du temps, je travaille là-dessus, on peut identifier un nouveau métier, bien sûr. Mais il y a certaines personnes qui vont me dire, en ce moment, je ne peux pas changer, ce n'est pas possible pour telle et telle raison. Donc, je garde mon job alimentaire, mais je comprends que pour être pleinement épanouie, je dois avoir une autre activité à côté, culturelle, sportive, humanitaire, sociale, que sais-je, qui va équilibrer ma vie, qui va m'apporter ce qui me manque dans mon travail aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé mes activités idéales. Et donc, on va chercher à remplir ces 4 cercles-là grâce à des questions que, alors, soit que je pose en coaching, soit qui sont dans mon livre qui s'appelle 50 exercices pour trouver son ikigai, vivre de ce qui vous fait vibrer. Donc, je pose des questions aux personnes et on les remplit et donc elles me donnent tout un tas d'éléments. Et on va se rendre compte assez vite qu'il y a des éléments qui sont récurrents dans chacun des cercles. Par exemple, je ne vais pas spoiler Isadora en disant que la cuisine, la nourriture d'une manière générale, revenait régulièrement dans tes cercles. Il n'y a pas tellement de suspense avec ça. Et voilà, donc ça fait partie de ton ikigai, je ne me rappelle plus comment on l'avait, c'est l'alimentation, je crois.
Oui, l'alimentation.
Alimentation. Voilà, ça c'est un des ingrédients de l'ikigai. Bien sûr, on n'en a pas qu'un, on a 3, 4, 5 parfois. Et une fois qu'on a défini donc, ces éléments récurrents, on a nos ingrédients de l'ikigai, on va voir de quelle manière ces ingrédients font aujourd'hui partie de ma vie ou pas. Et si ce n'est pas, de quelle manière je peux injecter dans ma vie des petites choses, des petites activités ou des grandes activités, un changement de métier carrément, ce qui va me permettre d'être pleinement épanouie. En fait, l'objectif de l'ikigai, c'est se lever le matin avec le sourire, savoir pourquoi on se lève le matin, avoir un sens à sa vie, être en accord avec ça. Il y a des personnes qui vont parler de mission de vie carrément. Moi, pour moi, c'est trouver un équilibre de vie qui va me rendre pleinement épanouie.
Ça me donne envie de refaire un coaching. Tellement j'avais adoré parce que à cette époque-là, quand on avait commencé toutes les deux, c'est exactement ce que je te disais. Je me lève pas le matin avec passion. J'avais perdu ce côté où je me lève le matin en me disant super, ce que j'ai pris dans la journée, c'est chouette. Et c'est vrai que ce coaching m'avait permis de me rendre compte que il y a besoin de changer de métier, mais d'ajuster certaines choses.
Et toi, l'ikigai, comment tu as rencontré l'ikigai, et surtout, est-ce que toi, avant l'ikigai, tu te levais le matin justement avec enthousiasme et t'étais épanouie professionnellement ou pas ?
Pendant un moment, oui, parce que j'ai fait des études de communication à la base et j'ai travaillé près de 20 ans dans la communication. Et à un moment donné, ça n'était plus assez, il manquait quelque chose. Et donc, je me suis tournée vers l'ikigai. Et alors, pour être plus précis, je vais quand même préciser que j'avais fait deux bilans de compétences à ce moment-là où je me sentais un peu en désaccord avec mon métier. Et donc, ces deux bilans de compétences m'ont dit « Vous devez être directrice de communication. » Ouais, super.
C'est ce que tu faisais déjà ?
Non, j'étais en dessous. J'étais un grade en dessous, mais voilà, je faisais déjà de la communication. Continuez à faire de la communication.
Restez dans votre domaine, ne bougez pas, juste gravissez.
Voilà, c'est ça. Non, s'il manque quelque chose, c'est pas juste le poste ou le salaire en plus, c'est pas ça qui manquait. Hein. Et donc, je me suis tournée vers l'ikigai. Et l'ikigai est différent du bilan de compétences parce que là, on prend la personne dans son intégralité. On peut parler d'une chose holistique, par exemple. Parce que là, il n'y a pas que mes compétences professionnelles et mes savoir-faire professionnels, il y a tout ce que j'aime faire d'autre. Par exemple, il y avait l'écriture. Quand j'ai fait mon bilan de compétences, l'écriture était ressortie. Mais quand j'avais vu que, non, un romancier ne gagne pas forcément bien sa vie, un journaliste, c'est souvent freelance, et voilà, j'avais tout de suite mis de côté en disant, bah non, c'est pas possible, donc je m'en désintéresse. Et puis là, l'écriture, clairement, hein, là non plus, je ne spoil pas, l'écriture était revenue dans mes ingrédients de l'ikigai, en tout cas la créativité. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Pourquoi je ne m'amuserais pas à écrire ? Ok, je ne gagnerais pas ma vie avec, mais en même temps, ce serait bien grave. J'ai un métier à côté, donc peu importe. Et j'ai commencé à écrire une nouvelle, deux nouvelles, trois nouvelles qui ont remporté des prix. Je suis même allée au Vietnam grâce à un concours comme ça. Et puis après, mes amis me disaient, c'est chouette tes petites nouvelles, mais on est frustrés, on voudrait que tu développes un peu ces histoires-là. Et si tu écrivais un roman ? Je me suis dit, c'est complètement folle, je suis incapable d'écrire un roman, mais n'importe quoi. Bon, j'ai écrit un roman. Voilà, c'est ça. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça pour moi, parce qu'au début, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire un roman, du coup, dans deux ans, je vais prendre un premier congé et un deuxième congé et partir définitivement de l'entreprise, et hop, je vais gagner ma vie, ça va être génial. Bien sûr que non, enfin, c'était même pas envisageable, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était juste à côté de mon métier, je vais écrire et ça va me rendre épanouie. Et ça a été vrai pendant un temps, jusqu'à ce que ça bascule.
Et comment t'as découvert, parce que ça fait combien de temps ça, comment t'as découvert, comment tu tombes sur l'ikigai, parce que c'est pas quelque chose, un concept hyper connu en France. Non.
Alors, effectivement, on le retrouve parfois dans la littérature autour du développement personnel, mais si je me rappelle bien, je crois que c'est mon amie Mylène qui en a entendu parler la première et qui a fait un stage, une journée de découverte à Paris avec une personne qui s'appelle Audrey Hakoun, qui m'a moi-même formée en tant que coach Ikigai et qui continue à former plein d'autres personnes. Donc, si vous êtes intéressée, vous
pouvez je vais noter le nom parce que j'ai toujours besoin de m'en former et d'en savoir plus. Voilà. Et c'est il y a combien de temps, justement, que tu avais fait ce coaching ?
Alors, c'était après. Donc, voilà, tout ça s'est mis en place. Et ensuite, j'ai fait une formation de coach professionnel classique, on va dire. Et j'ai voulu apprendre d'autres outils. Et donc, ce coaching Ikigai qui est arrivé... l'été suivant, ou non, en même temps, j'ai fait ça en parallèle du coaching. Donc, c'était il y a quoi, deux ans et demi, ça va faire trois ans cette année,
je sais pas. Ah oui, pour le côté coaching, toi, en
Ikigai.
Tant que professionnel. Mais quand tu l'as fait toute seule pour...
Ah oui, ça, c'était avant, du coup, c'était bien avant, puisque j'ai commencé à écrire en 2014. Donc, d'accord. Tu vois, ça remonte... Mon premier roman date de 2014, donc c'était peut-être 2010.
Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent, et c'était un peu mon biais, j'avoue, quand on s'est rencontrés en février, un truc comme ça, limite, tu as l'impression que du moment où je vais avoir fini le coaching, mais à la fin, je peux tout quitter, j'ai trouvé le métier, je suis épanouie pour le reste de mes jours, j'ai plein d'enfants et je suis dans une maison.
Vécu heureux, voilà.
Et la fin se termine là, voilà, le Disney s'achève.
À peine 35 ans, c'est fini.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ça le but non plus. C'est pas t'as fait ton coaching, demain c'est bon, je plie bagage, je pose ma démission. Alors moi, c'est mon entreprise, mais quelque part, ça aurait été exactement la même chose si j'avais été salariée. Et toi, du moment où t'as fait ton auto-coaching Ikigai et le moment où t'as pu en vivre pleinement, il s'est passé quoi ? Deux ans presque ?
Oui, même plus, hein, beaucoup plus. Mais c'était pas grave dans la mesure où à cette époque-là, ça me terrorisait de changer de métier. Enfin, jamais je l'aurais envisagé. Et encore plus être à mon compte, mais n'importe quoi. Donc, ça s'est fait progressivement et heureusement, parce que j'ai pu gravir toutes les étapes, toutes les marches qui m'ont amené à là où je suis aujourd'hui. Mais si ça s'était fait en une nuit, ça aurait été presque traumatisant parce que le gap était vraiment haut. Donc, oui. Heureusement que ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Et est-ce que tu penses que tu as quelque chose de différent d'une autre personne, parce que je m'explique, parce que parfois les gens ont cette impression que quand tu racontes ton histoire, ou que nous on va raconter la nôtre, ou qu'on va entendre des success stories entre guillemets sur les réseaux, que c'est parce que vous êtes différent. Est-ce que toi t'as l'impression d'être quelqu'un de totalement différent des autres, ou est-ce que tu dis non, la chance elle est pour tout, enfin la chance non, n'abusons pas, nous sommes en France, voilà, pays développé, etc., avec des aides, mais est-ce que toi ta personnalité tu trouves qu'elle est différente, ou que tout le monde en fait pourrait y réussir?
Mais je suis complètement d'accord avec ça, j'ai absolument rien de différent. Et tu sais, alors je voudrais pas faire trop auto-promo, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves, et dans ce guide-là, j'ai interviewé 12 personnes, parce qu'il y a 12 étapes, etc. Et donc 12 personnes qui ont réalisé leur rêve. Et toutes elles disent, bah, au début, j'y croyais pas. Et puis j'ai échoué. Et puis je me suis relevée. Et j'ai affiné le tir. Et en fait, c'est tout ça. C'est faire un premier pas. On regarde. Tu sais, c'est comme si quand tu ouvres les volets, tu fais un premier pas. Bon, ça va, je peux continuer. Je vais faire un deuxième pas. Et un troisième pas. J'affine le tir. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est un petit peu ça. Et on avance en marchant. Et voilà. La seule chose que j'ai faite de différente, et certainement vous aussi, pour en arriver là, c'est que j'ai fait ce premier pas-là et j'ai vu que ça me plaisait et j'ai fait le deuxième. Donc j'ai absolument rien de différent, et même pour tout vous dire, avant de quitter mon travail, j'avais une amie avec qui je travaillais et qui donc a quitté l'entreprise et elle, donc elle s'est mise à son compte, elle a suivi une formation de naturopathe, et je la regardais avec des yeux mais admiratifs en disant mais jamais je pourrais faire ça, mais jamais, oh, le courage que t'as, mais c'est un truc dingue. Jamais je quitterai la boîte. C'était une bonne boîte, j'étais bien payée, tout ça. Et quelques années plus tard, on s'est retrouvés ensemble. On dit, ben voilà, on a quitté toutes les deux et on s'éclate toutes les deux. Et jamais on reviendra en arrière. Jamais.
Et tout donc, ça, non, c'est l'ikigai.
Honnêtement, c'était le point de départ pour moi. C'est, ouais. Mais il y a eu un autre point de départ, mais qui n'a pas de rapport avec l'ikigai, donc je ne sais pas si j'en parle.
Mais si, ben, il n'y a pas de... Parle, hein, il n'y a pas de souci, c'est la maternité.
Non, c'était avant, moi, pour moi. Non, après, il y a eu ça dans un coin de ma tête, avec mes petites nouvelles que j'écrivais. Et puis, donc, mes copines, vous rappelez, qui disaient, ouais, écris plus. Et c'était dans un petit coin de ma tête. Et il y a eu quelque chose un jour, le 1er janvier 2014. Bon, je vous dis ça, c'est off, hein. Enfin, pour nous, pour tout le monde qui nous écoute, mais... et on avait une petite tradition en famille, c'est que ma belle-sœur tirait les cartes. Et voilà. Et moi, j'y croyais très moyennement. Quand ça me plaisait pas, j'écoutais pas. Et quand ça me plaisait, j'écoutais, voilà. Comme l'horoscope, tout ce genre de choses. Et donc, elle tire les cartes. Et là, elle me dit, elle sort toutes les meilleures cartes du jeu. Et elle me dit, mais écoute, pour ton activité littéraire, tous les voyants sont ouverts. Tu vas t'éclater. T'avais la pyramide, la corne d'abondance, le machin, le truc, les lingots d'or, je sais pas quoi. Bon, on en est pas là. Et elle me dit, vas-y, lance-toi. Puis il y avait la petite voix des copines, puis elle qui me raconte ça, j'ai dit, bon, allez, chiche, le fais. Je dis rien à personne pour l'instant, et je me lance. Et ça a été aussi un autre petit signe du destin que j'aurais pu complètement balayer d'un revers de main en disant n'importe quoi. Mais voilà, ça a été aussi... j'aime bien ce petit côté un peu plus mystique ou spirituel, voilà, qui fait partie aussi de mon cheminement aujourd'hui.
Ouais, mais moi je trouve que c'est important parce que finalement... On dit souvent dans la vie, tu sais, il y a des signes, etc. Mmh. Mais je trouve que finalement, oui, moi, je trouve que quand on ouvre les yeux et qu'on y... Enfin, je veux dire que moi, c'est vrai que pendant longtemps, pendant des années, etc., on détestait le développement personnel, la spiritualité. C'est quelque chose où je me dis, mais I don't comprends le concept de ce genre de truc. Même si finalement, on dit qu'on n'aimait pas ça, mais on avait quand même des façons de penser parfois qui étaient... Enfin, je crois qu'on est totalement comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'êtres humains, on est ce côté un peu incohérent souvent, où tu aimes un truc, mais en même temps tu l'aimes pas, enfin bref. Mmh. Et c'est vrai que la spiritualité, qu'on le veuille ou qu'on veuille pas, moi j'estime qu'une personne, à partir du moment où t'es être humain, t'es forcément, je dis toujours la même chose, mais qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des animaux, je trouve ça hyper chelou sur Terre, donc on peut pas dire factuellement... que tout est normal, il y a des choses qui sont bizarres, t'as un océan, un autre, t'as des lézards horribles, la pire phobie au monde, mais je veux dire, quand on y croit, moi je trouve que depuis qu'on regarde les signes un petit peu, ou qu'on essaie en tout cas de voir la vie avec quelque chose de plus positif, tu vois les petits signes, et en soi, t'aurais pu aussi bien te tenter et ça ne fonctionnait pas du tout, et auquel cas, tu tentais, et dans tous les cas, tu t'éclatais aussi.
Exactement.
Mais bon, tu serais peut-être pas éclatée professionnellement parlant, mais tu aurais peut-être trouvé autre chose après. Mais en tout cas, ça t'a... je trouve que c'est important aussi de ce que tu as dit au début, je trouve ça hyper important ce truc de toujours, de pas toujours pointer du doigt le côté professionnel tout de suite, tu vois. Parce que je pense que c'est un biais qu'on a tous quand on n'est pas heureux dans son travail. On pense tout de suite à le changer. Mmh. Et parfois, t'es pas heureux dans ton travail parce qu'il ne t'apporte pas, comme tu disais, quelque chose qui te nourrit. Moi, par exemple, si je peux me permettre une petite anecdote sur moi. Si,
tu sais, je t'écoute,
Marisa, je t'écoute, je ne juge absolument pas.
Allez, je ne juge pas.
dans un espace de non-jugement. Moi, à l'époque où j'étais, je me cherchais dans ma voie professionnelle, je venais de finir mes études de droit public et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ma mère me disait « Sois fonctionnaire, ce sera top, au moins tu auras un salaire, nanana. » Ce que j'ai fait, oui maman.
Parce que voilà. Votre mère est militaire, donc elle, le côté fonctionnaire, voilà. Travail à vie, c'est…
Moi, ça ne me parle pas, ça ne m'animait pas, mais je l'ai fait, j'ai été fonctionnaire, tout va bien, nanana. Mais pendant ce laps de temps, moi, je savais que ma vie ne me convenait pas, j'avais un manque dans cette vie professionnelle et j'ai commencé à faire le nail art. Donc, je me faisais des peintures sur les ongles, j'avais un blog, je me prenais en photo, les ongles, nan, nan, nan. Et ça avait vraiment hyper bien fonctionné. Beaucoup de mes amies blogueuses ont fait ça pendant un temps de leur métier, d'ailleurs, hein, à l'époque. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Mais ça m'a permis de trouver un sens et une joie dans quelque chose qui n'était pas mon métier. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, finalement, des activités en dehors de son travail. Parce que, comme toi, il y a des gens qui n'ont pas envie de quitter leur travail parce que ça les sécurise aussi. Et c'est pas, tout le monde ne rêve pas d'être entrepreneur non plus, mais en même temps, trouver à côté cette chose qui peut vous épanouir.
Ou parfois aussi, et ça c'était mon cas, c'est aussi peut-être réadapter ce travail-là. Parce que quand on avait fait mon Ikigai, à la fin, ça revient quasiment à tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que moi, mais dans les cercles, c'était alimentation, donc cuisine, partage, liberté. Et je m'en souviens plus du quatrième, tiens.
Tu me l'as dit tout à
c'était
l'heure.
C'était genre le rythme, le repos, le rythme, oui, quelque chose de ça. Pas. Et finalement, la chose qui n'allait pas, parce que si j'ai bien compris, l'IKEA, c'est quand même histoire, essayer d'avoir dans son activité, quelle qu'elle soit, au moins les quatre thèmes, on va dire. Et moi, ce que je n'avais plus, c'était plutôt le côté liberté, parce qu'on était vraiment devenus des machines de productivité. Et j'avais plus ce rythme, c'est-à-dire un repos, puisque on faisait que travailler, donc il n'y avait plus ce côté-là. Et juste en le sachant, j'ai pas eu besoin de changer d'emploi parce que je suis toujours là. Mais je vois mon travail complètement différemment puisque pour moi, c'est un travail. Mais je peux m'octroyer aujourd'hui un peu plus de liberté, un peu plus de repos dans l'après-midi si j'ai envie de bouquiner, des choses comme ça. Et déjà, ça a changé aussi l'anxiété que je pouvais avoir. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a plusieurs façons de voir se lever le matin. Oui. C'est pas uniquement changer mon emploi tout de suite. En plus, c'est hyper...
C'est ça.
Ça fait peur hein, de changer.
C'est stressant. Et voilà, ce temps est nécessaire. Après, il y a des gens qui sont prêts. J'accompagnais plusieurs personnes qui ont vraiment changé de boulot ou qui sont inscrites dans une formation et qui vont prochainement prendre un nouveau poste parce qu'elles sont prêtes à ça, parce qu'elles ont fait ce cheminement. Donc, ça peut marcher aussi, mais ce n'est pas, comme tu disais, la finalité. J'ai même une autre anecdote. Une personne qui n'était pas sur une randonnée, voilà, c'est ça, elle n'était pas sur une randonnée, et elle était sophrologue, elle avait fait une formation de sophrologue. Et donc, mais bon, il lui manquait quelque chose, et donc elle s'est rendue compte qu'elle voulait animer des ateliers de sophrologie dans la nature, mixer ses deux passions. Et donc, ça arrivait assez vite, puis elle me dit, tu sais, je me rends compte finalement que ce qui manque à ma vie, c'est bon, ok, j'ai trouvé le métier qui me convient bien, pas de souci, c'est facile à mettre en place. Mais ce qui manque dans la vie, c'est de l'amour, parce que je me sens seule, et je me rends compte là, avec l'Ikigai, que c'est une composante de ma vie qui manque, et donc je crois que je vais essayer de retrouver quelqu'un, alors que j'avais fait une croix dessus, etc. Donc parfois, il y a des découvertes comme ça, des prises de conscience vraiment inattendues, parce qu'on n'était pas du tout parti là-dessus. Et voilà, c'est ce qui manque à ta vie pour être pleinement épanouie. C'est la définition de l'Ikigai pour moi.
Et donc du coup, toi, tu conseillerais ce type de accompagnement, si on veut s'accompagner, mais avec ton livre où il y a plein de possibilités aujourd'hui, c'est facile de trouver Ikigai sur Internet. Mais, toi, tu penses que ça convient à quel type de personne? C'est plutôt féminin, c'est plutôt masculin, on s'en fiche du genre. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de quoi? De trentenaires, de soixantenaires, c'est qui
est ce persona?
Qui est le profil?
Le persona.
Qui font du Ikigai?
Ah, t'es en communication, tu connais bien ce mot.
Oui, exactement. Alors, dans mes clients à moi, je n'ai eu que deux hommes en Ikigai. Et donc, 99% sont des femmes. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelques personnes, effectivement, qui sont dans ma tranche d'âge à moi, donc plus de 40, on va dire, voire plus, je suis allée jusqu'à 65 ans, je crois. Mais j'ai énormément, en ce moment, de jeunes actifs. Ouais. Deux personnes qui ont... je crois que la plus jeune, elle a... 23 ans, et autour de 30 ans, qui viennent de commencer dans la vie active et qui se rendent compte très vite que quelque chose manque. Je pense à une jeune femme, dont je ne donnerai pas le nom, mais elle n'a pas 30 ans. Et elle venait de quitter son job de marketing, elle était responsable marketing dans une grosse boîte, et elle l'a quitté, ça ne convenait plus, et elle disait, moi, un truc que j'adorais, mais comme ça, elle me parlait comme ça, du bout des lèvres, comme ça, tout doucement, j'adorais voyager seule, mais vraiment, j'ai trop peur, c'est pas possible. Et résultat des courses, elle est partie d'abord au Portugal, où elle fait un stage de surf au Portugal toute seule, dans un groupe, elle a retrouvé d'autres jeunes, voilà. Donc ok. Et ensuite, elle est partie 3 semaines toute seule à Bali. Elle est revenue pour les fêtes, et là, elle repart aujourd'hui, je crois. Et voilà, elle mène sa vie comme ça, elle veut s'installer là-bas, elle veut monter son business là-bas. Et moi, quand je vois des parcours comme ça, mais je suis ravie parce qu'elle est complètement alignée avec ce qu'elle voulait faire, avec ses valeurs. Son ikigai, il est aligné au taquet. Donc, c'est ça qui est... Et je trouve ça génial que des jeunes aient cette prise de conscience-là à ce moment-là. Moi, je l'ai eue, j'avais plus de 40 ans. Et c'est pas grave. Enfin, c'est partie de mon histoire et j'aurais pas été la même si j'avais pas traversé tout ça. J'ai pas de regrets. Mais de le faire si jeune, ça permet d'avoir plusieurs vies. D'avoir cette première expérience, peut-être une deuxième, pourquoi pas une troisième, quatrième, on ne sait pas. Mais voilà, on ne subit plus. Et je trouve ça génial chez cette génération qui est plus jeune que moi, c'est on ne subit plus, ça ne me convient pas, je prends les choses en main, j'agis. Alors que moi et les générations au-dessus de moi, c'était t'as un métier pour. Tu fais des études, t'as un métier pour toute ta vie et voilà, sois contente, t'as un métier. C'est plus vrai aujourd'hui. Les jeunes ne l'acceptent plus et je trouve ça génial.
Mais c'est vrai qu'en plus, nous, on a la chance d'avoir tous ces outils que les générations précédentes n'avaient pas tout ça. Nous, on a quand même, l'IKIA, on a aussi tout ce qui est sophrologie, psy, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui facilement en accès. Donc, je peux comprendre. Moi, je vois bien aussi nos parents, si ça avait existé à l'époque, ils ne feraient sûrement pas, mon père ne serait absolument pas expert comptable.
Ah, mais non, c'est sûr, expert comptable, c'est mort.
Absolument pas. Il ferait son ikigai, il n'y aurait même pas expertise comptable dedans. Il n'y aurait, aurait même pas de chiffres.
Mais pas de chiffres. Parce que lui, il aurait été aussi dans l'humain. Tu vois, on partage, un jour, on fera un épisode sur la numérologie, on partage totalement le même chiffre avec notre père. Et lui, il est à fond aussi dans le partage, dans l'humain, dans le bénévolat, l'associatif. Il n'avait rien à voir à faire dans les chiffres. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que parfois, on est une génération où on nous dit « Vous n'acceptez plus rien, vous n'êtes pas assez résilient, vous… » Enfin, je veux dire, nous, à l'époque, on l'avait dans le dur. Oui, mais moi, quand je vois notre père, par exemple, il l'avait dans le dur, mais il n'était pas heureux. Professionnellement parlant, il n'était pas heureux. Sauf que quand tu n'es pas heureux professionnellement parlant, sachant que la partie pro prend énormément de place dans ta vie, puisque finalement, tes collègues, tu les connais limite plus que les personnes avec qui tu vis dans ton domicile. Donc, finalement, si tu n'es pas bien dans ta vie pro, il y a peu de chances que tu sois hyper épanoui dans ta vie perso. Sauf si tu as un à côté au top qui te, vraiment, qui te fait tellement un bien fou, une activité associative, quelle qu'elle soit, ou autre, un hobby. Mais sinon, pour moi, c'est foutu. Si tu n'es pas heureux dans ton métier, il y a peu de chances d'être heureux tout court.
Parce que c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on critique beaucoup cette génération. Ah, les millénials, ils ne veulent rien faire. Ce n'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'on veut faire, mais différemment. Oui. Et là, tu vois, je lis l'autobiographie de Simone de Beauvoir. Et à l'époque, elle voulait tellement pas se marier, avoir cette vie-là qu'elle voyait de sa mère. Je me marie, je fais à bouffer pour mes gosses. Elle voulait tellement pas ça. Mais quelque part, est-ce qu'elle avait le choix? Sa mère, elle avait le choix? Non, la société était comme ça. Nous, la société nous permet de réaliser un petit peu autre chose, de réaliser nos rêves aussi. Donc,
et finalement, ça veut dire qu'il y a eu de tout temps, il y a eu des personnes qui ont refusé l'ordre établi qui était et un métier, épouse qui tu dois épouser. Il y a eu toujours des gens qui l'ont refusé. Sauf qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que la parole se répand tellement plus vite qu'avant, il fallait lire 3 tomes ou 4 de Simone de Beauvoir.
Qu'elle a écrit à plus de 50 ans.
Voilà.
Elle a énormément souffert. Donc, c'est vrai que... Et puis, elle était une dissidente. À l'époque, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance de pas... C'est vrai que le fait de dire « j'ai pas envie de ça », fait qu'on passe pas pour des
dissidents ou des révolutionnaires, on passe pour des enfants pourri gâtés qui ont, enfin voilà. Mais alors que finalement, est-ce que la clé c'est pas justement d'être le plus heureux? Mais ce que j'aimais bien tout à l'heure, ce que t'as dit, et je trouvais ça intéressant quand t'as dit, elle a chuchoté le voyage. Ça me fait sourire parce que c'est un peu comme toi pour
aussi, qu'est-ce que j'ai chuchoté aussi.
Et ben comme toi quand tu disais que toi écrire, mais en fait c'est ça que l'ikigai permet. J'en parlais tout à l'heure avec toi ce midi, c'est que l'ikigai permet de mettre en valeur
quelque chose que la société ne met pas en valeur, quelque chose qui est en toi, qui t'appartient, mais que limite tu caches au monde, parce que tu vas dire ton métier, ça peut pas être ça, c'est interdit, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, parce que toi, l'ikigai aussi t'a permis d'assumer. Au début, tu disais peut-être à Marie-Lise un petit peu tout bas, genre, tu devais même te dire, elle va me juger, quoi.
Souviens-toi la première fois où je t'avais dit, par contre, pas de coaching l'après-midi, parce que l'après-midi, moi, c'est mon besoin de repos, moi, c'est mon. Mais j'osais même pas le dire, limite. C'était pas l'après-midi parce que. Et toi, tu m'avais répondu parce que t'as un truc professionnel. Et moi, j'ai pas envie de mentir. Donc, j'aurais pu très bien dire oui. En fait, non, c'est juste que l'après-midi, moi, j'ai pas l'énergie. Alors, bizarrement, il est 15h15 et nous faisons. Mais là, j'ai l'énergie. Mais.
Non, c'est pas l'énergie à donner pour quelque chose que tu sais qu'il a épuisé beaucoup l'énergie.
Ouais, c'est ça.
Un ikigai, ça te prend de l'énergie.
Mais sauf que moi, j'osais pas dire pareil hein, sur les réseaux. La seule fois où j'avais osé dire que j'aimais finir de travailler vers 15h30, 16h parce que. J'ai besoin, moi, de mon temps de lecture, de... Je me souviens, il y avait eu un commentaire, mais ça m'avait impacté. Ou, quelle chance tu as, c'est quand même une honte de montrer ça, parce que gagner si bien sa vie, parce que nous, on a le malheur en plus de dire nos salaires, mais bon, gagner si bien sa vie en vendant des trucs aux gens, en fait, limite en arnaquant pour qu'à 15h30, tu sois allongé dans ton canapé. En fait, ça m'avait tellement impacté que j'ai plus jamais osé dire, mais moi, c'est ma personnalité. Et c'est vrai que l'ikigai, quand on avait fait ensemble, et qu'on avait vu que moi j'ai une grosse partie où j'ai besoin, moi j'ai tellement d'énergie, tellement d'énergie, que très vite, comme une batterie un peu, je vais très vite à plat. Donc à 15h, moi généralement je suis épuisée parce que je parle vite, parce que je parle fort, parce que je fais toujours plein de trucs, parce que je marche, parce que du coup à 15h30 je suis à plat. Et c'est l'ikigai qui m'a permis, moi, d'assumer cette part en moi. Oui, je suis active le matin et le début d'après-midi, mais oui, moi, ma personnalité fait que je n'aime pas travailler trop l'après-midi, et maintenant je l'assumerai plus, même sur les réseaux, alors qu'avant c'était je chuchotais, quoi.
C'est une preuve d'estime de soi, de reconnaître ses besoins et de les affirmer. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu parles beaucoup de personnalité. Et c'est vrai qu'on avait travaillé avec un autre outil, alors je fais juste une petite parenthèse là-dessus parce que ça me semble intéressant. Quand je coach en Ikigai, je propose toujours une séance d'énéagramme. L'énéagramme, c'est l'étude des 9 types de personnalités. Et en fonction de ça, effectivement, on a un rythme qui est particulier, on a des peurs particulières, un mode de communication et même une vision du monde qui est vraiment très particulière. Et c'est très complémentaire à l'Ikigai, justement. Où l'Ikigai, on est là pour reconnaître tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on est, tout ça. Et aussi, notre type de personnalité qu'il faut prendre en compte. On n'a pas à en rougir, c'est comme ça. Ça nous apporte des qualités et des défauts, c'est pas le truc, mais des zones d'ombre ou des faiblesses peut-être. Et c'est OK. Et on accepte ça. Donc en termes d'estime de soi, que ce soit l'ikigai ou l'énagramme, c'est vraiment très intéressant parce qu'on s'accepte tel qu'on est, sans passer bien sûr dans l'arrogance, mais on s'accepte en tant qu'humain, tout simplement, avec nos qualités, nos défauts.
C'est vrai que l'énagramme a fait beaucoup penser au terrain naturopathique. On avait déjà beaucoup parlé avec Claudie, notre amie naturopathe. D'ailleurs, il y a une chronique à ce sujet sur notre site. Et quand tu m'avais parlé de l'énéagramme, c'était quasiment copié avec mon terrain naturopathique, où justement mon amie Claudie me disait, ça fait longtemps, ça fait des années qu'elle me dit, mais ta personnalité, ton terrain est un terrain plutôt calme, qui a besoin de repos et de se ressourcer pour pouvoir repartir de plus belle, repartir à chaque fois. Et moi, je l'entendais pas.
Tu l'acceptais pas. C'est le terrain lymphatique. Pour toi, c'est vraiment une personne lymphatique, c'est une personne très lente, très molle, et tu te dis, toi tu le refusais, pourtant moi je te trouvais totalement dans ce terrain-là, toi tu étais limite vexée à l'époque si on te le disait, parce que tu ne vois pas le rapport entre toi la lymphatique et toi l'énergique, mais en fait c'est juste que quand t'es une personnalité comme nous, qui donnons beaucoup d'énergie dans nos métiers, à faire des vidéos YouTube,
même
à parler,
soi,
on parle beaucoup... Et ben nous, ça nous pousse, tu vois, on fait un épisode de podcast qui dure quand même, nous, c'est pas des épisodes qui durent 20 minutes, c'est un épisode qui dure entre une heure et demie, voire 2 heures. On se rend pas compte de l'énergie que ça prend pour nous de juste avoir une conversation. On est en plus des introvertis, donc de base, parler longuement, on a besoin après de se ressourcer. Donc, c'est vrai que c'est des outils comme ça qui permettent vraiment de mieux se connaître et d'ensuite de s'assumer.
Oui,
ça c'est sûr. Ça.
Et c'est ce que j'appelle la stratégie de succès. Et on n'a pas tous la même, et c'est OK. Et donc, il faut juste connaître la sienne et l'accepter. Vous, votre stratégie de succès, c'est peut-être de commencer tôt le matin, de marcher, comme vous disiez, faire plein de trucs le matin. Et après, c'est off. Et c'est OK. Mm-hmm. Pour une autre personne, ça va être, je commence un peu plus tard et je finis plus tard. Peu importe la stratégie de succès. L'important, c'est de l'identifier et de s'y conformer et voir de... l'imposer d'une certaine façon, en tout cas de l'expliquer à ceux qui nous entourent.
C'est vrai.
Non, c'est vrai. Et c'est OK.
Et toi, qu'est-ce que tu penses quand tu fais un coaching ou quand une personne rencontre l'ikigai? Qu'est-ce qui fait que cette personne passe d'une personne qui doute beaucoup, parce qu'en général, si on se tourne vers l'ikigai, c'est qu'on est dans le doute, à une personne qui, à la fin, se dit waouh. Alors, enfin, c'est pas, on dit toujours, hein, y a pas de potion magique, ça n'existe pas, mais à la fin, tu te sens apaisé. C'est quoi le chemin? C'est justement cette découverte de soi et de s'assumer qui fait toute la différence?
C'est exactement ça. Et puis, l'intérêt aussi de le faire à deux, enfin de le faire avec une autre personne, et ça peut être, alors je ne parle pas forcément d'un coach Ikigai, mais même vous auriez pu le faire ensemble, c'est d'avoir un effet miroir, c'est-à-dire que y a des personnes qui peuvent me dire, par exemple, ce n'est pas pour toi Isadora, mais oh, ben, moi je fais la cuisine, tout ça, et moi je vais interroger ça, de quelle manière, pourquoi, comment, etc. Et une personne qui va banaliser un truc, oui je fais la cuisine, non, mais tu fais pas que la cuisine, tu fais des trucs, tu organises des repas pour X personnes, tu as telle valeur, tu as telle chose. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, je m'en rendais pas compte. Ah, c'est une qualité. C'est comme des personnes qui sont extrêmement généreuses et bienveillantes. Elles vont me le dire du bout des lèvres, hein, parce que c'est pas bien d'être bienveillant. Hein,
Berk.
C'est les bisounours qui sont comme ça, c'est pas des gens normaux, etc. Non, c'est une super qualité, la bienveillance. C'est pour moi, c'est ce qui fait tourner le monde, enfin. Et donc, j'apporte une autre oui. lumière, en fait, sur ce que les gens m'apportent. Alors, je ne suis pas là à encenser tout ce que les gens vont me dire, mais juste montrez-moi comment moi je ressens les choses. Et très généralement, ce que les gens m'apportent, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire la cuisine. Hein. Alors, bienveillante, je pense l'être. Mais voilà, et donc, j'apporte un coup de projecteur, en fait, sur ce qu'on m'apporte. Et la personne va dire « Ah bah oui, c'est vrai, je me voyais pas comme ça, ou je pensais pas que c'est une qualité, ou je pensais pas que c'est une force. » Et souvent, la phrase qui revient le plus souvent, c'est « Oui, mais ça, tout le monde sait le faire. »
Oui. Ben non. C'est trop bizarre, parce que c'est exactement ce qu'on a parlé ce matin avec une maison d'édition, et justement, on leur a dit exactement la même chose. « Non mais ça, c'est banal, il n'y a aucun intérêt, ça n'apporte... Enfin, tout le monde sait faire ça. Pourquoi donc, nous, vous voudriez travailler avec nous? Ça n'a pas d'importance. »
Mais c'est ce qu'on a très souvent dit, d'ailleurs, quand on fait... Quand on a voulu se poser pour faire nos compétences, bah limite on est là, mais tout ce qu'on sait, enfin tout le monde s'est fait d'un banal.
C'est banal. Et c'est très intéressant ce que tu as dit par rapport au fait de le faire à deux, parce que moi quand j'avais vu ton live sur Erol, j'avais tout de suite pris une feuille, j'avais noté tout ce que tu disais, j'avais pris une feuille et avec Samuel, du coup le père de ma fille, on a fait ça ensemble et c'était hyper intéressant de le faire à deux parce que lui non plus il se voit pas forcément, comme lui, comme moi, je le vois. Et notamment, une des compétences que j'avais, je ne sais pas si c'est dans l'aspect compétence, mais il me semble que oui, c'est que lui, il a quitté la Martinique pour venir en France quand il avait 19 ans. Il n'avait jamais mis les pieds en France, même si on dit que la Martinique, c'est la France.
Oui,
France,
certes. Métropolitaine, Marisa.
Voilà, la Martinique, c'est la France, oui, mais en termes de culture, etc. Quand tu arrives de Martinique à 19 ans sans avoir jamais mis les pieds en France métropolitaine, c'est un choc culturel de fou. Et je lui disais, mais est-ce que tu... te rends compte que t'es partie de chez toi, de ton confort, de ta maison et de ta maman, pour venir seule en France. Il a atterri à Niort, enfin, je veux dire, pas évident. Il est noir dans un pays majoritairement blanc, hein, clairement. Donc,
avec un accent différent,
etc. Je lui ai fait, et t'as réussi de cet éloignement familial et émotionnel à te créer une vie de famille ici, à te créer un emploi, un truc.
C'est de l'indépendance.
Et c'est de l'indépendance. Je fais, attends, t'es hyper autonome. Et
lui, c'est même de la résilience.
Mais je lui fais, mais et lui me dit, ah, j'ai pas vu ça comme ça. Que lui, c'est quelque chose qui est totalement, ben, j'ai pris un billet d'avion un jour et je suis venue en France, point. What? Je fais, non, mais moi, je l'aurais jamais fait, par exemple. Jamais. Et donc, c'est intéressant de le faire à deux, en effet, parce que les gens ne se voient jamais comme ils sont.
C'est ça. C'est il a une capacité d'adaptation, ton mari, très certainement très forte. Et ouais. Ça doit se ressentir au quotidien aussi.
Bien sûr. C'est quelque chose de... C'est une normalité. Donc, il ne peut pas le mettre en avant auprès d'une
exactement, force. Comme une force. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de l'identifier comme une force et de voir comment ça, puisque je l'ai expérimenté, je l'ai en moi, cette force-là. Comment je peux capitaliser dessus et m'en servir pour ce changement de job que j'envisage. Et dans ce portrait à 360 degrés, il y a un exercice à un moment donné où je demande aux personnes d'identifier leurs qualités parmi une liste de plusieurs qualités et d'envoyer ce questionnaire-là à des proches ou à des collègues de travail pour que ces personnes-là disent « Voilà, moi, les qualités que je trouve, c'est ça, ça, ça. » Et c'est super intéressant parce que parfois, on se découvre dans les yeux de l'autre des qualités qu'on banalisait complètement. Moi, je donne souvent cet exemple-là où j'ai envoyé ce questionnaire à une de mes amies et qui a mis en qualité méticuleuse. Et s'il y a bien un truc, là, vous ne voyez pas trop mes... ma bibliothèque derrière, mais ce n'est pas méticuleux. S'il y a bien vraiment une qualité que je ne pense pas avoir, c'est ça. Et elle me dit si, parce que quand tu fais tes visuels sur Canva ou voilà, un truc d'infographie, c'est au cordeau, c'est la couleur exacte, le positionnement, les marges, les machins. Et effectivement, je suis très méticuleuse là-dedans, pas pour autre chose. Et j'ai ah ben oui, c'est vrai. Et maintenant, ça me fait plaisir quand je suis sur Canva de, voilà, de faire ça de manière méticuleuse. Et ça me fait plaisir, voilà, en termes d'estime encore. Ça renforce la confiance que je peux avoir en mes compétences. Et c'est ça qui est intéressant quand on le fait à plusieurs, d'interroger l'autre. Mais pourquoi tu penses que je suis méticuleuse? Dans quelle situation tu penses ça? Et est-ce que ce mot-là a la même signification pour toi que pour moi? Déjà rien que ça. Donc, c'est vraiment intéressant de mieux se connaître à travers ça, à travers le regard de l'autre.
Ah oui, non, moi, je trouve que c'est un truc vraiment sympa. Et ce que j'avais dit à Samuel à l'époque, quand on avait fait ce mini-coaching tous les deux grâce au replay du live, c'est que je lui avais dit, trouve pas que ça a ouvert un dialogue entre nous. Parce que, tu vois, dans le quotidien, tu as un enfant, tu parles, tu as acheté ça, nanana. Et là, ce soir-là, on s'est vraiment posé. Et du coup, on est parti dans les profondeurs de lui, de sa vie là-bas, qu'il est venu ici, de moi, nanana. Et en fait, finalement, c'est vraiment des vraies conversations. Bon, nous, on est très friands de conversations profondes. Moi, les trucs superficiels, je m'en lasse très vite. Mais du coup, là, je me suis dit, c'était vraiment une vraie conversation hyper agréable pour apprendre. Bah, déjà, lui, il en est ressorti valorisé de dire... Elle me voit comme un homme autour d'un nain. Et moi aussi, j'en suis certainement ressortie ce moment-là en mode ah bah tu vois, je ne savais pas qu'il me voyait comme ça. Donc c'est vraiment. Je trouve que l'ikigai, c'est vraiment ce truc de la valorisation de soi, que ce soit par l'autre ou même par soi-même, parce qu'on ne se voit jamais tel que l'on est.
C'est vrai que quand on est à deux avec quelqu'un dans son foyer, etc., c'est chouette si la personne elle est ouverte à ça. Et
quand c'est quelqu'un d'extérieur,
c'est clair que moi je l'aurais pas fait toute seule. Moi, c'est clair que je l'aurais pas fait toute seule, même avec ton livre ou quoi, j'aurais pas fait toute seule parce qu'il y a des trucs qu'on oublie de soi-même, qu'on ne penserait même pas. Et sans toi, il y a des moments où je n'aurais même pas vu telle ou telle qualité. Non, je ne l'aurais pas dit de moi-même. Donc, je trouve que c'était chouette. Mais du coup, ma petite proposition, pour que les gens soient moins flous pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ces cercles? Et bien, je me disais, ça pourrait être sympa qu'on fasse un petit peu les cercles de Marisa.
Parce que moi, j'ai pas eu la chance de faire le. Ouais. Tu m'as pas offert de coaching, toi.
Tu me disais tout le temps, moi, c'est ma vie personnelle, c'est pas ma vie professionnelle.
Oui, moi, c'est vrai que là où c'était le plus dur pour moi, c'était ma vie personnelle. Donc, c'est
vrai. On pourra trouver un autre coaching.
Mais non, parce que l'ikigai, est-ce que ça aurait fonctionné pour. Bah, justement, bonne question, Isadora. Est-ce que si je suis perdue, justement, dans ma vie de couple, de femme, de mère, etc., est-ce que l'ikigai, c'est quelque chose que tu peux recommander?
Complètement. C'est ce qui manque à ma vie pour être pleinement épanouie. Si tu n'es pas épanouie dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a assez de joie, assez de liberté, assez de nature, de sport? Je ne sais pas quels sont tes ingrédients, mais et comment tu peux les intégrer? Bien sûr, ça marche pour ça. Ça marche même, j'étais en train de réfléchir l'autre fois, tout à l'heure en pensant à vous, j'imaginais par rapport à l'alimentation, ça pourrait marcher. On pourrait faire le premier cercle de tout ce que j'aime manger, tout ce que je sais faire concrètement en termes de technique, quelles sont mes valeurs par rapport à l'alimentation, alors manger bio par exemple, je dis n'importe quoi, et du coup, quelles sont les recettes que je pourrais faire, comme ça j'ai une liste de recettes qui me correspondent complètement par rapport
à... J'adore.
Ah oui, il y a un truc, il y a un concept, tu détiens un concept là.
On l'enlève de la... à couper. On le garde pour nous.
Je vous l'offre. Bien volontiers.
Toi qui ne sais pas cuisiner, qui apparemment tu n'aimes pas cuisiner, c'est ça?
Je cuisine quand je reçois vraiment, mais au quotidien, d'accord. C'est rapide.
D'accord. Bah, ça peut être un concept, tu vois, dans un prochain livre. Non, quoi que dans ton livre, ton dernier livre, elle cuisinait, la jeune femme. Peut-être que tu as quand même un lien avec la cuisine que tu aimes bien quand même, malgré
tout. Oui, alors j'ai ce côté convivial et quand je reçois, je mets les petits plats dans les grands et je sais à peu près faire deux, trois trucs. Mais au quotidien, je prends pas ce temps-là.
Ouais, bon, en tout cas, ça pourrait être intéressant.
Ikigai, alimentation,
oui,
j'adore.
Ça pourrait être un truc de trouver quelqu'un dans un milieu peut-être diététique ou un chef, etc., et de faire un ouvrage croisé avec elle. Ça pourrait être sympa. L'ikigai alimentation, c'est vraiment un chouette concept. Moi,
Bon, voilà. Bah, écoutez, c'est cadeau si vous voulez. Vous, vous êtes plus spécialiste que moi du sujet.
Mais toi, tu es spécialiste de l'ikigai.
Ah, peut-être qu'on fera un concept ensemble.
Mais oui. Mais c'est ça qu'on va faire.
Voilà. Merci. On en reparle en.
Oh, d'accord.
Donc, on va faire... D'ailleurs, moi, je ne me souviens même plus. Parce que moi, j'ai mes cercles. Donc, moi, c'est... Je ne me souviens même plus quelles étaient les...
Les questions.
Les questions, tout ça. Mais histoire de voir un petit peu. Mm-hmm. Là, beaucoup de fois, ceux qui oui. écoutent en même temps
peuvent noter. Parce que moi, j'avais trouvé que c'était un super exercice. Déjà, dans un premier temps, juste pour... même si on n'est pas suivi, même si on n'est pas accompagné, juste pour un peu...
Voilà, ça illustre un peu quel est ce cercle-là. Mm-hmm. Alors, le premier cercle, moi, que je travaille, parce que c'est le cercle qui est le plus facile et qui nous met en joie. Tout ce qu'on aime, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qu'on a envie de partager, dans lequel on a envie de plonger bien volontiers généralement. Plus que les compétences où c'est peut-être parfois plus difficile à creuser. Donc on commence par ce cercle-là, c'est tout ce que j'aime. Et donc ce que je vais te proposer, Marisa, c'est de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui... Alors tu n'as pas le droit de dire l'alimentation. Qu'est-ce qui te passionne ou te fait vibrer?
Pourquoi je pourrais dire l'alimentation?
Parce que c'est tellement évident.
Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qui me passionne et qui me fait vibrer?
Ouais.
Ah, c'est une bonne question.
S'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Hein.
Non, il n'y a pas que ça, mais qui me fait vibrer, je dirais, moi, c'est rencontrer des gens, toujours les rencontres, nouvelles personnes, et l'échange, la danse, clairement, danser, tout ce qui est danse, musique, ça me fait vibrer. Voyage, of course. Voyage, découverte d'un nouvel endroit, en tout cas.
Manger,
évidemment, mais elle a dit que je n'ai pas le droit, mais évidemment.
Bien sûr.
Dîner, manger. Mm. Et c'est la base. Ce qui me fait toujours, moi, c'est prendre soin de moi. J'aime beaucoup, je suis une vraie... j'aime me maquiller, j'aime me faire le vernis, j'aime... moi, je suis très... toi, tu connais toujours les nouvelles tendances, les trucs. Moi, je suis très cheveux, trucs...
tu pourrais être esthéticienne.
Ah oui, c'est pas très bon. Parce que moi, c'est sur moi, tu sais. Moi, j'ai le côté égocentrique, donc c'est sur moi plus que sur... je pourrais être youtubeuse beauté, peut-être. je pense que c'est ce qui me fait vibrer dans la vie. J'ai pas de grand hobby, tout ça, donc je pense que c'est...
J'ai eu l'impression, quand tu parlais tout à l'heure, que tu aimais bien aussi comprendre des choses, apprendre, te cultiver.
Ah, mais ça, c'est même pas que ça me fait vibrer, c'est ma personnalité.
Voilà, c'est ça.
Moi, je suis quelqu'un qui a, comme Isadora, d'ailleurs, on a ce truc où on entend un mot immédiatement. D'ailleurs, ça m'est pensé à Claudie la dernière fois, qui nous parle, on va chez elle à un dîner, elle me parle de placardologie, donc c'est le côté, la science... des placards chez toi, tu vois, il y a des naturopathes, des diététiciennes qui vont chez toi pour regarder l'intérieur de tes placards et dire un peu comment faire, etc. Elle me parle de placardologie, immédiatement, je suis sur mon téléphone et je screen, je me dis, je vais y revenir tout à l'heure parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Tu peux pas me donner un concept comme ça et que j'en sache pas plus et d'aller en profondeur. Voilà, c'est mon truc, ça. C'est nous.
Ok. Alors, une deuxième question. Donc, moi pendant que tu parles, moi, j'écris des mots-clés. Voilà. Si tu devais écrire un livre ou réaliser un documentaire, ça porterait sur quoi?
Je m'en souviens de cette question.
Aujourd'hui, ce serait un livre ou un documentaire? Alors moi, c'est toujours... la cuisine, il y aura toujours ce truc de l'alimentation. Mais aujourd'hui, je me demande si j'écrirais pas un livre ou un documentaire sur la maternité aussi. Fort. Mais parce que je suis une jeune maman, je pense que dans 10 ans, ça me sera passé. Que l'alimentation ne sera jamais passée.
Je veux dire, limite, dans un an.
Dans un an, ça sera passé. Non, mais c'est vrai que... je dirais... Oui, ce serait un livre de recettes ou... un livre ou un documentaire. Ouais, je pense que ça porterait sur l'alimentation et le voyage, je pense. Quelque chose qui se... Ah. Ouais, quelque chose... je trouve qu'on parle... On voit pas assez dans les cultures, dans les... Moi, c'est vrai que le père de ma fille est haïtien et martiniquais, donc j'ai ce truc d'avoir envie toujours d'apporter plus, de montrer aux autres comment on mange aussi ailleurs. Donc, je pense que c'est un truc comme ça, ouais.
L'alimentation. Tu n'as pas répondu la même chose, Isadora?
Peu ou prou.
C'est ça. Okay. Ça me rappelle des choses, hein, ce genre de réponse. Il y avait aussi ce côté voyage. Et... Donc, voilà, ça, c'est les deux questions. Alors, il y en a beaucoup plus. Et je précise aussi que je laisse le temps aux personnes de réfléchir. C'est-à-dire que moi, j'envoie les questions en amont. La personne prend le temps de creuser, d'y revenir, etc. Parce que spontanément, comme ça, c'est pas évident de faire cette introspection. Donc, normalement, on laisse plus de temps. Là, tu es vraiment en live. Alors, le deuxième cercle, donc, c'est toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire. Quel est ton petit truc en plus, ce talent que les autres n'ont pas?
La tchatch.
Ouais, non, mais le sens de la communication.
Ouais, le sens de la communication, je pense...
C'est plus joliment dit.
Et je pense que j'ai ce truc aussi que quand je suis quelqu'un qui, quand elle découvre quelque chose, je
très rapidement, je peux le véhiculer à mon tour. C'est-à-dire que, comment dire,
je transmets.
Voilà, la transmission. Voilà, je transmets assez facilement. Et ça, bien avant d'avoir mon métier aujourd'hui sur les réseaux, c'est qu'à la base, j'étais toujours votre...
C'est qu'on nous transmettait les infos.
Voilà, à l'époque, dès que je découvrais quelque chose en termes de beauté ou un truc dans le genre, je leur achetais toujours à mes sœurs le truc top à la mode. Et elles me disaient, mais il n'y a que toi pour trouver des trucs comme ça. Donc moi, j'ai toujours ce truc de découvrir quelque chose et de pouvoir le... Il faut que tout le monde soit au courant immédiatement quand je découvre quelque chose. Donc je pense que c'est quelque chose que pas tout le monde a.
Il y a la transmission et ce goût pour l'innovation, pour la nouveauté, pour
la recherche.
La recherche, hein. Ouais, c'est ça.
J'aime chercher des nouvelles tendances. Voilà, moi, je suis dégoteuse de tendances. Dès qu'il y a une tendance, j'aime bien en savoir plus et ensuite la transmettre. Et maintenant, c'est vrai que c'est pour moi un bonheur sur les réseaux de découvrir quelque chose et de pouvoir immédiatement, grâce aux stories, ou de pouvoir directement, comme toi, l'Ikigai, tu vois, Zadora m'a parlé du livre. J'ai vu ton live, tout de suite, je l'ai balancé sur Instagram en story. Tout de suite, j'ai offert à Isadora parce que j'ai ce truc de vouloir tout de suite transmettre.
C'est ça. Et tu vois, c'est typiquement dénicheuse de nouvelles tendances. Alors, j'extrapole à outrance, mais pour une personne, ça pourrait être un début de piste pour un nouveau métier qu'elle n'aurait pas du tout envisagé. Mais c'est une vraie compétence et une vraie appétence aussi pour ça. Donc, c'est important.
C'est vrai.
Quelles sont les réussites pro ou perso dont tu es le plus fière?
Alors, réussite perso, moi, évidemment, est-ce que toute mère ne dirait pas mon bébé d'amour? Bon, voilà.
Alors oui, je vais te préciser, en dehors des bébés.
En dehors des bébés. Non, je pense que, même si j'étais très fière d'accoucher, parce que c'était ma phobie dans ma vie, donc j'étais très fière.
Oui, mais encore que oui, pardon, je fais une boutade, mais pour certaines personnes, c'est un vrai accomplissement de devenir mère parce qu'elles ont une enfance compliquée, parce qu'elles avaient peur de devenir maman, etc. Donc pour certaines personnes, je le prends.
Ouais. Non, moi, j'en étais pas là du tout. C'était pas un accomplissement de soi, mais je dirais le côté pro dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à fédérer grâce à un message qui pour moi était banal, on en revient toujours même, mais l'alimentation, ça me paraissait banal, d'avoir pu fédérer une telle communauté et aujourd'hui, pouvoir la nourrir, 6 ans plus tard, continuer à avoir des sujets pour la nourrir et pour continuer à être présent. Ça, je trouve que c'est une belle...
D'accord.
Jamais j'aurais pensé ça un jour, quoi.
Ouais, donc tu vois, il y a des mots qui reviennent déjà, le côté partage, fédérer, échange, nouveauté. Enfin, tu vois, déjà là... Moi, je suis en train de souligner des mots qui reviennent comme ça et qui, très certainement, on verra, je ne vais pas spoiler, mais qui font partie de ton ikigai.
On aura les mêmes. Je ne sais pas pourquoi je sens plus ou moins.
C'est un métier, pour moi, sans partage, une vie, de toute manière, qu'il soit même... Parce que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mon métier ne peut pas être décorrélé de ma vie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon métier, c'est aussi moi. Je ne me verrais pas avoir un métier qui n'a rien à voir avec qui je suis personnellement. Et le partage, c'est qui je suis. Moi, dans ma vie perso, je partage. Dans ma vie, sauf partage pas mes cookies. Mais sinon, dans ma vie perso, je suis toujours dans le partage aussi. Et pour moi, ça fait partie de moi. Donc, c'est impossible de
le
mettre de côté.
Ah ouais, carrément. OK. Et puis, je voulais te demander, dans ce cercle-là, toujours, de me donner 5 qualités. Alors, tu n'as pas la liste. Donc, tu es comme ça, ex nihilo, de me dire quelles sont tes 5 plus grandes qualités. Sans avoir peur de passer pour prétentieuse, on est d'accord.
Alors, mes 5 plus grandes qualités.
J'avais dit ça, je vais en prendre prétentieux.
Ouais, tout le monde me dit ça.
Alors, je dirais que je suis quelqu'un de solaire. 5 qualités, comme ça. Je sais pas.
C'est drôle.
Dur. Je suis drôle. Ah oui, c'est vrai que je suis drôle. Quand je veux, je suis drôle.
Alors attends, Isadora, parce qu'après, je vais te demander à toi ces qualités.
Ah oui.
De Marisa.
Ah oui, d'accord. Oups. Mes qualités, je pense que c'est quelqu'un qui pense aux autres.
Altruiste, on peut dire.
Ouais, clairement. Je pense aux autres. Tu m'as dit combien il faut que j'en dise ?
5, on est à 3.
Oh là, c'est dur. Une autre qualité, je suis une bonne cuisinière.
Et une bonne épouse.
Une bonne cuisinière, une bonne mère, une bonne épouse.
Et j'ai un petit tablier.
Et une autre qualité.
Je suis belle.
Oui, c'est vrai.
Mais on peut mettre ça, on est d'accord.
Non, je ne sais pas. Une autre qualité. C'est difficile, hein. Moi, je trouve ça trop difficile de dire de soi-même qu'est-ce que... Parce qu'on se regarde peu... En mode hélicoptère au-dessus de soi.
Et en positif.
Et en positif. On a toujours tendance à pointer, j'allais te dire, tu vois, moi, direct perfectionniste, je suis toujours dans le contrôle. Tu vois, c'est facile pour moi.
Est-ce qu'on pourrait pas mettre communicante ?
Ah oui. Mais non, parce que disons que oui, c'est une qualité que j'ai en tant que professionnellement parlant, mais en qualité perso, la communication me fait défaut. C'est compliqué pour moi, la communication dans la vie personnelle, mais la vie professionnelle, c'est très, très facile.
D'accord.
Une caméra, hein. Ce serait pas très facile si tu étais dans un bureau avec plein de collègues.
Ah oui, face à face. Ce serait différent, ouais. Non, je sais pas, là, comme ça, une autre qualité. C'est quoi ? Est-ce que vous pouvez me dire des listes des mots de qualité que les gens ont tous ? Qu'est-ce que j'ai
Moi, je peux pas dire parce que moi, j'ai déjà mes...
On a déterminée, persévérante, on a gentille, bienveillante.
Moi, j'ai
travailleuse.
Une de mes qualités quand même que j'ai pas dit, c'est quand même la tolérance. Je suis quand même extrêmement tolérante.
Ah, parfait. Okay.
Ouais, tolérante.
Je voulais dire, moi, c'était ma qualité limite première.
Oui.
D'accord. Alors, Isadora, du coup, si on fait ce 360, quelles sont les qualités de Marisa ?
Bah, du coup, je m'en enlever deux. Moi, j'avais drôle et tolérante.
Ah bah, c'est, t'as le droit. Je le prends.
Tu me trouves drôle ?
Oui.
Oh, c'est gentil.
Je vais toujours.
T'avais 5, tu m'avais dit.
Non, j'ai dit j'en avais, mais du coup, maintenant, je sais plus. Ponctuel.
Ah.
Ah oui, ah bah ça c'est je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, moi c'est ma phobie dans ma vie d'être
vraiment ponctuel, c'est-à-dire arriver une heure avant.
Ouais.
Très ponctuel.
Je mettrai.
Même si depuis que je viens en province, je le suis moins quand même.
Je trouve que parfois tu te.
Je me laisse plus aller. À Paris, c'était vraiment la ponctualité. C'était ma. Bah, dès que je dépendais d'un RER ou d'un métro, j'étais. Non, ça me stressait trop.
Tu t'es mis en couple avec un Martiniquais.
Ah oui, non, mais là.
Ça a tout changé. No offense, hein, mais c'est vrai que c'était drôle. Depuis que les Antilles sont rentrées dans notre famille.
c'est catastrophique, oui. Bon, j'ai pas tant de qualités que ça de la part de ma sœur jumelle.
Non, mais moi, tu sais, c'est pareil, les qualités, c'est un truc... j'arrive pas à avoir là, comme ça.
Comme qualité humaine, dans son rapport aux autres. Ou dans ses qualités professionnelles.
J'ai que des défauts.
Par exemple, il y a le sens de l'organisation.
Les gens seront sur les réseaux, diront, mais c'est complètement faux, elles ne sont pas du tout organisées.
Non.
Est-ce que c'est le sens de l'écoute ? Est-ce que c'est le sens du partage
créative.
Aussi ?
Ah oui, mais bien sûr, créative.
Ah, créative.
Quand même.
Allez, c'est manque une.
Qu'on a mis sur en ligne depuis toutes ces années-là.
C'est vrai. Il m'en manque une.
Bon, il me faudrait une liste de qualités.
Normalement, il y a une liste de qualités, hein, je vous rassure.
Oui, parce que là, comme ça, à brûle pour point.
Curieuse, peut-être.
Ah, mais bien sûr, c'est vrai que. C'est vrai que...
C'est évident.
Bon.
On oublie ses qualités.
Curieuse slash commère.
Bah, moi, j'ai vu curieuse parce que tu m'as dit je veux voyager pour découvrir et rencontrer d'autres personnes. Donc, il y a ce côté curieux, mais c'est une curiosité, bien sûr.
Oui,
mais on mettra, si tu as la liste des défauts, on mettra commère.
Il n'y a pas ça. Donc, voilà pour ce cercle numéro 2. On passe au cercle numéro 3 tout de suite.
Okay.
Donc, c'est les valeurs. Les valeurs, ce que tu peux apporter aux autres. Donc là, je vais te demander, pour aller vite, de me donner deux noms de personnes dont tu admires les qualités que tu ne connais pas forcément par cœur, enfin, tu ne connais pas toute la vie, mais spontanément, qui tu admires ou tu admires les qualités ou tu apprécies les qualités de cette personne, connue ou pas connue.
D'accord.
Vivante ou morte.
Comme ça, je vous laisse le temps aussi de réfléchir parce que je sais que les gens immédiatement ils vont réfléchir aussi.
Bien sûr.
Moi aussi. Donc c'est pas l'impression d'avoir un blanc complètement gênant. Deux personnes que j'admire.
Sache que le silence est bavard.
Oui, non mais ça parce que j'ai pas cette. Moi j'ai une personnalité. Je pense que droite est pareil que moi. On a ce truc, on a pas des personnalités de.
Ah moi c'était très rapide.
Ah, très
rapide.
Avant. Ah d'accord. Moi je me demande est-ce que admirer.
J'admire, ouais.
Alors, admirer, c'est pour ça que j'ai dit apprécier. Certaines personnes, admirer, c'est trop fort. T'es pas en mode fan, mais tu dis quand même cette personne-là, elle a des qualités appréciables. Voilà.
Mais tout le monde a des. Enfin, je veux dire, qui n'a pas des qualités appréciables.
Une personne qui en a plus que d'autres, peut-être.
Que j'admire. Là, comme ça, une personne inconnue au bataillon, enfin, inconnue, si, mais dans le sens où que j'admire en personne que je ne connais pas personnellement, ce serait Michelle Obama. Elle l'admire beaucoup, j'aime son parcours.
Ok, alors donne-moi deux, trois aspects pour lesquels tu l'admires.
Ah bah j'admire le fait que ce soit une femme noire dans un pays majoritairement blanc qui a réussi à accéder, bah, grâce à son mari, mais peu importe, un certain
niveau de pouvoir,
qu'elle a réussi, enfin, qu'avec son mari, dans leur couple, ils ont réussi à avoir deux fois de suite, en plus, deux mandats, et qui aujourd'hui est toujours une personnalité emblématique dans son pays. Donc je me dis, elle a, par exemple, des gens comme Hilton, Hillary Clinton, etc., aujourd'hui, moi, je l'entends pas, je la connais pas, etc., qu'elle, c'est vraiment, issue d'une minorité, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable d'être arrivée, surtout dans un pays où la ségrégation raciale a été... de ouf, quoi. Enfin, ça a été extrême. Donc, je me dis que c'est vraiment une personne...
Donc, elle a quoi comme qualité pour arriver à ça ?
Ah bah, je pense que déjà, elle a... Alors, pour moi, elle a une assurance en elle.
Une confiance en elle.
Bah, qu'elle a eue aussi grâce à ses parents, mais qui est vraiment intéressante. Moi, je trouve, nous qui avons lu ces deux ouvrages. C'est une bosseuse. Elle est résiliente, parce que je pense que quand on est noir dans un pays... qui a du mal avec ça, je pense qu'elle a une résilience que pas beaucoup de gens ont. Voilà.
Elle est tolérante, bienveillante.
Elle est tolérante, bienveillante. Elle est drôle. Non, moi, c'est une femme que je trouve vraiment admirable. Après, je ne la connais pas personnellement, mais je pense pas que ce soit une mauvaise personne, ça, c'est sûr et certain, même s'il y a des gens qui jouent, qui portent beaucoup de masques dans... Je ne pense pas que ce soit une personne qui porte un masque, elle, en tout cas. Je serais déçue si on arrivait à avoir... un jour, quelque chose, un scandale. Après, c'est cliché, mais je dirais quand même. Je veux dire, Isadora, parce que.
Ah bon ?
Ben oui.
Oh, je suis choquée.
Ben si, parce que jamais, et je le dis quand même souvent, mais jamais je n'aurais eu cet esprit entrepreneurial, ou en tout cas pas au moment où Isadora. Moi, je suis quelqu'un qui a très peur de l'entreprise, le côté. La création d'une entreprise. Moi, j'ai besoin de sécurité dans ma vie. Donc, ce côté où elle a décidé, parce que moi, il y a eu quand même beaucoup de moments où j'ai voulu te freiner au début dans Snackies, parce que j'avais peur que tu.
C'est vrai.
Moi, je suis quelqu'un qui suis peureux. Et donc, du coup, j'avais envie de lui faire comprendre que j'avais peur pour elle qu'elle ne réussisse pas. Donc, je préférais la freiner un peu, comme j'ai fait pour Samuel. Samuel, il a créé sa boîte aussi. Mais comme pour Isadora, je croyais fort en leur projet. J'adorais Snackies.
Mais que ce soit pas nous qui le fassions et que limite quelqu'un d'autre qui se casserait la gueule potentiellement et que tu n'aurais pas besoin de nous ramasser à la petite.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc Samuel, j'étais à fond avec lui sur le projet. J'ai investi avec lui. On s'est tout donné pour. Mais dès qu'il a fallu lancer le projet, pouf, j'essaie de le freiner aussi. J'essaie de lui faire comprendre que non, pas tout de suite. Plutôt dans un mois, deux mois. Et c'est Isadora qui a dit non, mais Samuel, t'arrêtes là maintenant. Tu fonces. Là, ton site, il n'est pas prêt. On s'en fiche. Est-ce que tu as tes produits qui sont prêts ? Tu balances sur un site qui est même moche, c'est pas grave. Moi, j'étais là, non. Moi, ce truc que Isadora a, c'est l'esprit entrepreneurial que moi, finalement, j'ai parce qu'elle m'a offert un coussin de sécurité, un filet de sécurité. Je me sens... Après, je peux lui dire, oui, c'est bon, on peut entreprendre ça, parce que derrière, elle a fait le taf, en fait.
Ouais, d'accord. C'est marrant parce que ça me donne une idée de ton type énéagramme, là, tes réponses.
Ah,
à creuser. Donc, tu m'as dit Michelle Obama pour ses qualités d'assurance et de confiance en soi, les bosseuses et les résilientes, tolérantes et bienveillantes, et Isadora pour l'esprit entrepreneurial, cet esprit créatif et audacieux.
Oui, et elle a le côté aussi maman très maternelle que j'ai un peu moins, même si je suis quand même très maman, mais pas du tout dans le même délire qu'Isadora. Elle a vraiment ce côté douce. D'un coup, elle parle à un enfant, elle parle comme ça.
C'est drôle, il y a une abonnée qui nous a dit hier... Quand tu as fait genre que tu t'es trompée sur nos photos sur Instagram, il y en a une qui nous a envoyé un message, c'est une abonnée mais de très 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 longue date, qui nous envoie en disant « Jamais je pourrais ne pas vous reconnaître parce que Marisa a toujours cette lumière, et c'est vrai, et on peut regarder toutes les photos qui datent d'il y a, mais depuis qu'on est bébé. » Marisa a ce côté des yeux pétillants, des yeux lumineux, qui cherchent la rigolade.
Comme ma fille. Ma fille a arrêté totalement ça de moi.
Et moi, j'ai toujours ce côté, et encore maintenant, plus doux, plus en retrait. Je me mets moins en avant. Et ça m'a fait rire parce que c'est bien ce que tu viens de dire. Je sais même pas ce que tu disais. Voilà,
c'est ça.
Toi, t'as ce côté vraiment douceur de la maternité. T'es toute douce. Toi, tu t'aimes que les gens soient tous bien. Que moi, j'ai le côté altruiste, mais moi, j'ai plutôt le côté altruiste à grande échelle. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres à grande échelle, en groupe. Je pense au bien commun, je pense aux gens en Afrique ou trucs comme ça. Mais je vais moins être maternante des gens qui m'entourent proches de mon centre proche.
Ouais, donc très sociable. Alors, pourquoi je t'ai proposé ce petit exercice-là dans le cercle 3 ? C'est que, en fait, cet exercice repose sur l'effet miroir. C'est-à-dire que ce que tu admires chez ces personnes-là, ce sont des qualités ou des valeurs que tu as déjà en toi ou que tu sens que tu as besoin de développer encore un petit peu. Mais ça n'est pas complètement étranger en toi. Parce qu'on admire chez l'autre que ce qu'on connaît, en fait, que ce qu'on a déjà nous. Donc, je vais te demander à quel point tu as de l'assurance, confiance en toi, bosseuse, résiliente, tolérante et bienveillante.
Bah si, je pense que j'ai tout à certains degrés.
Oui,
en fait, voilà. Mais je pense que j'ai... Oui, c'est vrai que je n'aurais pas pensé qu'il y avait ce petit tourneboulement.
À chaque fois, tu es surprise, Marie.
Non, c'est... Oui, je pense que j'ai à peu près tout. Parce que j'admire la personne, en fait, j'admire les personnes. Oui, en effet, c'est peut-être que inconsciemment, en effet, j'admire les personnes qui me renvoient quelque chose que j'ai l'impression de ne pas forcément avoir au quotidien, mais qu'au fond de moi, je me dis, si, quand même, je suis bienveillante, je suis tolérante.
T'as tout ça. Et l'esprit entrepreneurial, tu l'as peut-être moins qu'Isadora, mais tu pourrais, aujourd'hui, maintenant, t'as l'expérience aussi, tu pourrais faire ça. Tu as ce côté créatif aussi, peut-être dans un autre domaine, j'en sais rien. Audacieux aussi, certainement. Et cette douceur, ce côté maternel que tu évoquais chez Isadora, tu l'as, toi, mais tu l'exprimes d'une autre façon, à plus grande échelle, comme tu disais.
Tu l'as enfoui. Et tu devrais travailler, justement, tu disais plein de fois de travailler sur ça parce que tu l'as, mais tu l'enfouis.
Et peut-être qu'à un moment donné, c'était comme ça et que demain, tu vas ressentir ce besoin de le développer un peu plus. Et c'est OK. OK. Autre question du cercle numéro 3. Qu'est-ce qui te révolte dans la société d'aujourd'hui ?
Oh, punaise. Bon, alors là...
Ne lancez pas sur le site.
Allez, trois trucs.
Ah oui, bon, déjà, on va pas dire les trois trucs. Je veux dire, dans un truc, j'en vais englober tout ce qui est intolérance, racisme, homophobie, tous les trucs phobies, là, je supporte pas. Grossophobie, tout ça, moi, c'est un truc que je supporte pas. De faire les gens qui ont une haine des autres, ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est quoi trois trucs que quoi déjà, j'ai oublié.
Qu'est-ce qui te révolte dans la société d'aujourd'hui?
Qu'est-ce qui me révolte dans la société d'aujourd'hui? Donc
moi,
ça,
je dis pareil aussi, l'intolérance.
L'intolérance, ça c'est,
ça me rend ouf.
C'est voilà. Qu'est-ce qui me révolte? C'est ce qui me révolte. Oui, c'est là, c'est pas dans la phobie, mais c'est le côté. Comment décrire ça en un mot ? C'est... Mais qui me révolte aussi de moi-même qui je suis, c'est juste par rapport au fait que j'ai regardé un film sur Netflix récemment qui s'appelle Les Nageuses, que je conseille à tout le monde de regarder, sur deux jeunes sœurs syriennes qui sont venues en bateau en Allemagne et qui ont fait les Jeux... Enfin, une d'entre elles a fait les Jeux Olympiques il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et tout le long, j'ai pleuré, ça m'a révoltée parce que je me dis, en fait... la révolte, c'est vraiment le côté nombriliste de la société. Aujourd'hui, on a tous vu, enfin moi personnellement, j'habitais en région parisienne à l'époque des problèmes en Syrie, j'ai vu ces cortèges de migrants syriens, et on ferme les yeux. On les voit, mais ça ne nous touche pas. Pour l'instant, c'est pas moi qui ai vécu ça. Donc, mais le jour où ça va me toucher, si un jour on se passe une vague migratoire comme ça, il y a des gens qui vont encore fermer les yeux devant moi et ma fille. Mais c'est horrible. Et ça me révolte, ce truc où moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais on peut plus juste fermer les yeux sur des gens qui souffrent parce qu'ils viennent d'un pays où on se dit, non, on n'a pas envie de savoir. Donc ça me révolte beaucoup. Ça m'a beaucoup révoltée. J'ai regardé ce film, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Qu'est-ce qui me révolte ? Je dirais ce qui me révolte... À moindre mesure, mais ça c'est beaucoup moins que les deux choses que j'ai dites avant. Ce qui me révolte un petit peu, moi, c'est surtout en France, c'est le côté où la France est un pays où on a plein d'aides, franchement c'est un pays vraiment, moi je ne veux pas critiquer la France, mais il y a ce côté qui me dérange parfois, ce côté un peu assistanat, mais pas le bon assistanat, bien sûr qu'on est un pays qui est un pays providence, tout ça qui est top, mais il y a ce truc parfois où je me dis, surtout que nous, on a connu des gens, qui vivaient grâce aux aides de l'État. Mais je savais que, ils avaient le même âge que moi. On avait 25 ans à l'époque. Mais eux, c'était juste, moi, comme ça, ce soir, je suis en boîte de nuit, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me révoltait beaucoup. Et mes amis ne comprenaient pas que ça me révoltait. Bah, il faut en profiter. Moi, c'est quelque chose qui me révolte. Donc, on a une super chance d'être dans un pays au top du top pour ça, mais j'aime pas les gens qui profitent. Ça, je veux pas.
Alors, moi, pendant que tu parlais, j'ai entendu tous les mots que tu me disais et j'ai essayé d'associer quelles sont les valeurs associées. Donc, les valeurs que j'ai notées, moi, ce sont les valeurs de tolérance, de respect, de bienveillance par rapport au racisme et à tout ce qui était phobie, là, comme tu disais. Il y a l'altruisme, le sens commun, la générosité, l'ouverture d'esprit, le courage d'aider l'autre aussi. Et pour le dernier point, le côté volontariat, responsabilité, je ne subis pas et je n'attends pas les aides des autres, mais je prends les choses en main.
Oui.
Donc ça fait partie de tes valeurs, tes vraies valeurs.
D'accord.
Voilà, okay. Donc ça, c'est important de... Parce que si je demande comme ça aux débeautés, expression 1920, quelles sont tes valeurs? Alors, il y a des personnes qui vont dire, alors moi, j'exagère, mais alors moi, c'est la paix dans le monde, ma famille, c'est tout ça. Et je ne dis pas que c'est faux, bien sûr. Enfin, moi, d'avoir un psychopathe, la paix dans le monde, j'imagine que tout le monde le partage plus ou moins. Et la famille aussi, pourquoi pas. Mais... moi, ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs qui te tiennent au corps, quoi, les trucs qui te font vibrer. Bien sûr que tu aimes ta famille et que tu veux que tout le monde soit en paix, ok, ça c'est d'accord. Mais ce qui vraiment te caractérise et qui t'anime, c'est ça qui m'intéresse. Hein, donc ça c'est important de trouver un biais pour connaître ces valeurs-là. Ouais, donc là, avec ce cercle-là, donc ce troisième cercle, on a déjà pas mal de valeurs. Tu vois, le côté assurance, confiance, bosseuse, résilience, audacieux, etc. Et tout ce qui est bienveillance, qu'on vient de dire là. Donc là, moi, maintenant, j'ai pas mal d'éléments déjà qui se recoupent par rapport à tout ce que tu as dit. La tolérance, elle revient déjà à chacun des cercles. Bim, bim, bim. La créativité aussi. Et donc, on va attaquer le dernier cercle, donc mes activités idéales. Quelque chose qui est important de comprendre, et tu l'as dit tout à l'heure, Isadora, c'est de définir quel est... notre rythme idéal, et moi j'appelais ça une stratégie de succès. Et donc ce que je vais te demander, c'est à quoi ressembleraient tes journées si tu faisais, si tu exerçais ton job idéal.
Déjà, à quoi ressembleraient les journées? Déjà, comme aujourd'hui, ce seraient des journées où je n'ai pas de réveil, je me réveille quand je veux, mais bon, je suis très matinale, tout le monde le sait, donc il y a peu de chances que je me réveille à
10h.
À 6h30, en tout cas, je suis réveillée. Mais... en tout cas, je n'ai pas ce truc que j'ai connu dans mes vies professionnelles avant, de dire, oh mon Dieu, il faut que je sois à telle heure au travail, non, non. Donc ça, c'est vraiment...
Donc plus de souplesse dans les... Dans...
Ah oui, ça, c'est quelque chose qui... Quand on dit avec Isadora, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on truc, est-ce qu'on va retourner dans le salariat, j'ai quand même, moi, matin, quand même, cool. Cool. À quoi ressemblerait une journée?
Tu ferais quoi?
Je ferais quoi? Alors, je verrais des gens, déjà. Moi, je sortirais de chez moi. Je sortirais de chez moi. Ça, c'est vrai que le travail à domicile, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait moi. Je sortirais de chez moi, donc je m'apprêterais. Ça, c'est sûr et certain que je m'apprêterais. Je sortirais de chez moi. J'irai voir des gens, mais pas toute la journée. Parce que la sociabilité, ça va bien, mais pas tous les jours, toute la journée. J'aime bien voir des gens. Par exemple, pendant 2 jours, je sais que je vais être en sortie pour le travail. Et après, je sais que j'ai une journée où je suis là. Aujourd'hui, tu sais quoi? Je fais rien. Enfin, je veux dire, je ne fais rien, je ne vois pas des gens, je peux travailler, mais de chez moi, jamais en pyjama, désolé, ce n'est pas un concept chez moi, mais je m'habille, mais plus chill, si je ne me maquille pas, je ne me maquille pas, et ensuite je travaille chez moi, vraiment sans, je fais ce que je veux en fait. D'accord. Donc j'ai besoin d'avoir une partie de sociabilité quand même dans mon travail, je ne peux pas rester une semaine seule à travailler devant mon ordinateur, ça c'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je ferais sinon? Je pense qu'il y aurait forcément quelque chose de créatif. Donc aujourd'hui, c'est sûr que prendre des photos, faire des vidéos, c'est quelque chose qui est tellement intégré en moi que je ne me vois pas trop... Mais je me verrais aussi le faire pas forcément... Enfin, c'est quelque chose que je me verrais de plus en plus le faire pour d'autres personnes aussi. Alors, pas forcément être photographe, c'est pas du tout photographe ou vidéaste, mais c'est quelque chose que je m'imaginerais plus, moi, c'est le côté... est-ce que j'irais pas voir des jeunes entrepreneurs justement qui ont débuté comme nous un jour et dire bah moi je crois en ton concept parce que je suis une dégoteuse, n'oubliez pas je suis une dégoteuse de concepts de trucs, j'aime ton concept, par exemple Claudie qui vient de créer sa boîte de feutres, j'adore ce qu'elle propose mais elle a pas la capacité elle d'en faire des photos, de gérer un compte Instagram, ça je me verrais bien faire un truc comme ça mais pas tout le temps. Voilà, de me dire, bah, tu sais, aujourd'hui, je sais que je peux faire ça. Je vais chez Samuel pour ses épis, je vais chez Claudie. Et ça m'a rempli parce que j'ai passé du temps avec des gens que vraiment, dont j'admire déjà le travail, je trouve que l'on passe des très bons moments avec ces personnes-là. Et après, je rentre chez moi, je fais mon petit travail de post-prod le lendemain, tu vois. Je suis toute seule, je fais mon truc de créativité. Ça, tu vois, je suis en train de découvrir un métier que j'ai envie de faire, Isadora. J'abandonne, merci beaucoup.
Au revoir.
C'est drôle, c'est que c'est l'opposé de moi. Ah, oui. Je n'ai même pas parlé, moi, de...
De voir des gens.
Non, si, moi, je pense que j'avais parlé vite fait, mais ça devait être vraiment limite le matin.
Ouais.
Mais moi, je n'ai pas du tout parlé, par exemple, et ça, ça me fait poser question quand j'entends, je n'ai pas du tout parlé de vidéos, de...
Ah oui, d'accord.
Pas du tout. Moi, j'ai parlé de... Moi, il faut que je fasse à manger.
Ah oui.
Que je cuisine.
Et parce que je pense que toi, tu as beaucoup plus... Alors moi, j'adore la cuisine, mais je pense que tu as beaucoup plus que moi, ce truc de cuisine, que moi, j'ai plus le côté... Cuisine.
Sociabilité,
Moi, j'ai plus le côté de mettre en valeur... La cuisine, tu vois ce que je veux dire, j'ai, plus, j'ai moins ce truc de, pour la cuisine, contrairement à Isadora, c'est quelque chose que je fais de façon, comment dire, je cuisine parce que je dois manger au quotidien, mais moi j'aime bien manger, donc je ne peux pas faire des, mais Isadora elle a vraiment ce truc cuisine où elle, j'ai envie de faire une charlotte au truc, et je vais faire ça le samedi après-midi parce que ça va me détendre, moi personnellement non, c'est pas quelque chose que je vais me, je me fais pas des challenges comme ça quoi, donc si moi j'ai ce truc où, parce que moi, avant même d'être avec toi, Isadora, j'avais déjà mon blog. Donc, la photo, le côté ça, visuel a toujours été imprégné.
Ce qui est intéressant, c'est que moi, je parlais de dans le travail, c'était cuisine.
Oui.
Alors que c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, la première chose que j'ai fait sur Snapchat à l'époque, sur Instagram, c'était je prends des photos de ma cuisine. Alors, toi, c'était de prendre des photos de tes ongles.
Oui.
Toi, ce qui t'intéressait, c'était de prendre finalement les photos, de mettre en valeur quelque chose. Pas spécialement, tu mettrais très bien en valeur aussi le feu
de Claudie. Bien sûr,
que moi, non.
Je pense que je peux mettre en valeur toutes ces choses, parce que moi, la cuisine fait partie intégrante de mon bien-être et de mon hygiène de vie, mais pas que. Moi, par exemple, la décoration, je suis quelqu'un qui est très casanier, j'aime énormément la décoration, donc Claudie, finalement, elle rentre. Je ne pourrais pas travailler, par exemple, avec un automobiliste, ou un concessionnaire, par exemple, automobile, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de mon bien-être que d'avoir une voiture, par exemple. En revanche, quelqu'un qui vend, un magasin bio, par exemple, ah bah tiens, t'as besoin de moi, je peux aller, quelqu'un qui vend des plantes, un fleuriste, c'est tous ces trucs qui font partie de mon bien-être.
Qui partage tes valeurs.
Voilà.
Ok. Donc là, moi, ce que j'ai noté, tu vois, pendant que tu parlais, c'est qu'il y avait besoin de souplesse, besoin de sociabilité, de relations sociales, besoin de liberté dans l'organisation de ton temps, l'autonomie, l'indépendance, la créativité, la photo, la vidéo, mettre en valeur des choses, des gens.
Oui.
Ça, c'est vraiment très important pour toi. Et ce côté aussi artiste, créatif, avec la décoration. Et surtout, rester en phase avec tes valeurs.
Oui. Parce que moi, je pense que c'est un truc qui me frustre beaucoup, c'est que je vois tellement de potentiel chez plein de gens, et me dire, mais je peux vous emmener, quoi. Tu vois, c'est Samuel, quand il a créé Acassan, à la base, il avait une idée, on l'a complètement développée. Parce que je me disais, mais ton idée, elle est super, mais viens, on va plus loin, et ton idée, j'y crois à fond. Et ça me frustre de me dire, tu peux. Donc, j'ai ce truc-là, ouais. Je dirais que c'est ça.
Comme tu disais, dénicher des opportunités, des tendances. Non seulement tu sais les dénicher, et ensuite les faire aboutir à quelque chose, les mettre en valeur. Dernière question de ce cercle-là que je vais te proposer. Quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais adolescente, vers 16-17 ans?
Dans l'édition. Je voulais être éditrice. Forcément, j'étais en lettres modernes. J'ai pris des études par la suite de lettres modernes. Mais quand j'étais toute petite, je voulais être pharmacienne. Bon, laisse tomber, ça s'est vite cassé la binette.
Quand tu étais nulle en maths.
Voilà, quand j'étais nulle en maths. Mais sinon, moi, c'était dans le livre. C'était le métier du livre, C'était l'édition,
Et aujourd'hui, est-ce que le livre occupe une place importante, suffisante dans ta vie?
Alors, non. Alors, c'est compliqué parce que quand j'ai commencé à travailler avec Isadora, avant que je me perde, le livre, c'était quelque chose que je lisais énormément, comme Isadora. Dès que j'ai commencé à me perdre et à rentrer dans ce truc de productivité, je n'ai plus jamais lu, je ne lis plus, même rien, c'est-à-dire que je ne lisais plus du tout. Et là, depuis qu'on a décidé de ralentir le rythme, on a repris la lecture, et là, je me dis, mais quand même, j'ai totalement oublié une passion que j'ai eue pendant tant d'années. C'est-à-dire que je ne suis pas partie en lettres modernes parce que je n'aimais pas lire.
Bien sûr,
Et du coup, je me suis totalement oubliée. Mais est-ce que je me verrais faire... Non, je ne pense pas un métier forcément dans le livre.
Tu voulais ouvrir une maison d'édition il y a encore 6 mois.
J'avoue, j'ai oublié, j'avoue.
la balance.
Non, mais j'abuse. Oui, c'est vrai. J'ai oublié, mais je voulais ouvrir une maison d'édition. Parce que pareil, encore une fois...
Isadora, viens, on ouvre une maison d'édition. Viens, s'il te plaît.
Parce qu'encore une fois, en fait, je suis frustrée de voir tous ces talents que j'ai autour de moi, de gens dont je sais, par exemple, Claudie, je trouve qu'elle a notre grande sœur, je trouve qu'elles ont des choses à dire. Et je veux, mais comme elles ne sont pas connues, etc., je me dis, viens, nous, moi, je vois qui vous êtes, je vois tout ce que vous pouvez apporter aux gens, au monde, comme vous nous avez apporté. Venez, on écrit un truc. Ils adorent, moi, on a des idées aussi. Je me dis, comme ça, on fait une maison d'édition. Voilà, c'est passé, c'était assez... Et Claudie m'avait dit, ouais, banco, je vous attends.
Mais donc, on change d'idées d'entreprise. Enfin, on a des idées d'entreprise, limite, si on nous écoutait, on en crée une par mois.
Ouais, c'est clair.
Donc, après, oui, tu peux mettre en valeur ces talents-là à travers un livre, bien entendu, ou à travers autre chose.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que j'avais oublié que l'histoire de la maison d'édition.
Non, mais c'est encore une fois la mise en valeur de quelque chose.
Oui.
Faire
oui.
émerger les talents, quoi. Oui. C'est ça qui caractérise.
Faire émerger les talents. J'adore cet exercice. J'espère que vous aussi, vous aimez le côté hyper égocentrique de cet exercice.
Ah non, non, alors attention, je m'inscris en faux. C'est pas le côté égocentrique, c'est le côté introspectif.
Non, je veux dire, dans les pauvres où ils écoutent une nana se faire un
nikigai. Ah, par rapport à ça.
Je sais pas, peut-être que ça leur permet aussi
bah, de... Mais c'est illustratif, oui.
Illustratif, ça leur permet de, eux, écrire vos trucs et aussi d'apprendre aussi à nous connaître un peu plus. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a dites qu'on n'a pas forcément dit, d'ailleurs, pas du tout, dans d'autres formats. Donc, c'est intéressant.
C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut.
Oui, c'est vrai, on fait ce qu'on
Exactement.
Veut.
Exactement.
Si vous n'aimez pas, vous avez qu'à créer votre propre podcast. Même pause. Pop, arrêt.
Alors là, bon, on était très rapide hein, sur ces quatre cercles-là. Normalement, il y a beaucoup plus de questions. Isadora pourra témoigner qu'il y a beaucoup plus de questions que ça. Oui. Mais quand même, rien qu'avec ces deux, trois questions par cercle, on a des choses qui émergent très facilement. On a, en vrac, hein, on a ce sens du partage, de l'échange, de la transmission, le côté fédérateur, tolérant. On a cette bienveillance, ce côté résilient, ce côté créatif qui ressort beaucoup. Altruiste, généreux, responsabilité, la liberté, on a l'indépendance, le sens esthétique, voilà, et faire émerger les talents. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand on a fini le dernier cercle, je vais noter tous ces mots comme ça qui reviennent à travers les cercles, et on va faire un travail un peu sémantique où on va mettre les mots qui se ressemblent, par exemple, liberté, autonomie, parfois on peut les mettre ensemble, ou créativité et sens esthétique, ça peut aller ensemble pour certaines personnes. Donc, je vais amener la personne à faire ses propres regroupements, hein, qui ne sont pas les miens, et en faisant comme ça une méthode en entonnoir, on va trouver un mot qui est vraiment important. Par exemple, ça va être le partage pour toi. Je vais trop vite, mais ça peut être le partage, ça peut être la communication, ça peut être mettre en valeur. Parfois, c'est un groupe de mots, hein, ça peut aller aussi. Et donc, on va avoir comme ça, allez, 2, 3, 4, 5 ingrédients. Des choses qui sont différentes les uns des autres. Hein, ces mots, ce sera un peu différent. Ce sera peut-être le sport, la nature. Bon, là, c'est pas ressorti, mais pourquoi pas. Et donc, là, la dernière étape, une fois qu'on a défini notre ikigai, donc il y a vraiment un travail, comme je disais, de recherche du bon mot, le mot qui est juste pour toi, tu vois, c'est ça. On va voir de quelle manière ces ingrédients sont présents dans ta vie aujourd'hui. Oui. À quel degré? Alors, ils ne sont pas obligés d'être à 100% tous.
Oui.
Il y en a qui sont plus que d'autres. Mais en tout cas, ils doivent être présents d'une manière ou d'une autre. Comme on disait, soit dans une activité entière, soit dans mon activité et dans ma vie familiale, dans ma vie associative, dans ma vie sportive. Et voilà. Mais en tout cas, dans toute ma vie, il faut que ces ingrédients-là soient toujours présents. Sinon, tu vas ressentir à un moment donné un manque de sens, un manque un problème avec tes valeurs, tu ne vas plus te sentir aligné et il va y avoir une faille à un moment donné, c'est sûr.
Ah, c'est intéressant parce que du coup, là, je me rends compte que ce qui me manque, tu vois, là, comme ça, on en parle, je me dis, ah, ce qui me manque, c'est quand même le côté sociabilité que finalement, dans notre métier, on n'a pas. On est toujours dans l'entre-soi, on est toujours avec toi, c'est tout. Et c'est vrai que quand on va voir quelqu'un d'autre, quand je vais passer une journée avec Samuel pour l'aider avec ses épices et tout, ça me fait vraiment, je me dis, ah, je suis sortie, j'ai vu quelqu'un d'autre, j'ai pu mettre en valeur, en effet, ce que lui, il a créé.
Et bah, je pense qu'on interview aussi en podcast avec des personnes physiques, ça nous fait toujours énormément de bien.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est quand le projet de vouloir aller chez les gens, dans leur placard, ça aussi, ça nous enrichirait beaucoup plus que de montrer toujours nos placards.
Non, c'est sûr.
Et tout le temps un peu ce côté...
Mais moi, je pense que j'aime le produit. Je suis très attachée aux objets. Moi, je suis quelqu'un je suis très attachée. J'ai pas beaucoup d'objets parce que les gens savent que je supporte pas les bibelots, mais j'ai des vrais objets que je chéris. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de mettre en avant quelque chose qui, tu sais, qui embellit ou qui fait du bien au quotidien. tu vois. Toi, t'as moins ce truc-là que moi, je pense. Toi, t'as plus le côté les gens. Toi, t'aimes beaucoup parler aux gens, t'aimes beaucoup... Ouais. Tu vois, le podcast, à la base, c'est toi qui l'adore le plus.
Et c'est drôle parce que moi, mon métier, quand j'étais petite, c'était maîtresse d'école.
Voilà. Ils adorent là beaucoup plus.
Donc, parler aux autres, parler...
Et... Toi, c'était la transmission, si je me rappelle bien, qui était important pour toi.
C'est drôle parce que maîtresse d'école, c'était vraiment le métier mais que j'ai voulu faire pendant des années et des années.
Jusqu'à mes 25 ans. Je te le dis souvent, d'ailleurs, dans les vidéos YouTube que t'as, ou dans, sur le podcast, qu'Isadora, quand elle parle, elle a beaucoup plus une... comment dire, quand tu parles, vraiment, j'ai l'impression que tu essayes vraiment de... Comme une maîtresse, c'est vrai. Mmh. Moi, j'ai plutôt ce truc tout feu, tout flamme. Mmh. Je parle dans tous les sens. Moi,
je suis là pour temporiser. Sinon, on te détesterait.
Ah, mais je pense qu'on me détesterait. Franchement, si j'étais toute seule sur les réseaux, ce serait pas possible. Parce que je parle tout feu, tout flamme. Isadora a plus ce côté très...
Oui, vous êtes complémentaires. Toi, tu as une petite boule d'énergie. Et Isadora tempère et peut-être plus pédagogue, si je comprends bien ce que
exactement,
vous dites.
Exactement, c'est le mot.
Ah, si,
je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je dis, mais toi, t'es beaucoup plus pédagogue que moi. Je n'ai pas du tout cette... J'ai beaucoup moins cette pédagogie.
Ce qui est agréable dans votre duo, c'est ce côté très complémentaire.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, année 2023, année du duo. Ou c'est l'année dernière, le duo? En tout cas, l'année dernière ou cette année, en tout cas, misez sur le duo.
Je pense que pour vous, ça marche tous les ans.
Pour nous, c'est facile. Mais sinon, elle disait, Lydie Castel, justement, d'aller chercher un duo, un associé, une personne avec qui on peut travailler. Ou même, par exemple, elle disait même des concurrents de base. On croirait qu'on est concurrents. Par exemple, toi, tu pourrais t'associer, pas dans ton entreprise, mais créer un ouvrage avec une autre personne qui fait du coaching Ikigai, par exemple.
Par exemple, mais complètement. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi faire. On est beaucoup de copines autrices à peu près sur les mêmes créneaux. Il n'y a pas de concurrence entre nous. On parle très facilement de nos difficultés, nos hésitations, de tout ça, et on s'enrichit les unes les autres.
Oui, c'est important, oui. Donc, c'est intéressant.
Ce qui est drôle, dans c'est que là, c'était long, entre guillemets, pour vous en podcast, ou même si ça se trouve, vous entendez des choses croustillantes. Alors que moi, quand je l'ai fait, mais c'était beaucoup plus long que ça.
Ah oui, mais j'imagine.
Parce que là, les ingrédients, comme tu dis, mais nous, on les a découverts l'avant-dernière séance.
Ah non, toi, tu les as découverts. Moi, je les avais déjà.
Là, t'es en train de dire que le travail de Marie-Lise est très long, mais non,
parce que j'ai l'impression que là, du coup, bien sûr, c'était rapide, mais c'est juste pour montrer aux gens que, juste pour dire que c'était beaucoup plus long.
Bien sûr, et profond.
Bien sûr. Que ça, parce que moi, quand j'arrêtais avec toi après, je t'appelais tout le temps.
Toujours.
Mais à chaque fois, ça m'avait appris un truc sur moi-même que je pense que je savais au fond, mais peut-être que tu disais pas tout fort ou que tu pensais pas que ça pouvait être une force non plus. Et du coup, les quatre mots finaux, enfin les quatre ingrédients, moi je les ai appris à la sixième séance. Et j'étais là, mais c'est tellement ça.
C'est ça, une espèce de côté révélation à la fin, où la personne a l'impression que ces quatre mots-là, 4-5, c'est une espèce de carte d'identité de qui elle est vraiment profondément, intrinsèquement. Et aussi, pourquoi ça prend plus de temps? Parce que bien sûr, il y a plus de questions et pour trouver l'activité idéale. Parfois, j'ai besoin aussi, moi, de plus d'informations que là, ce qu'on a fait rapidement. Et puis, il y a des personnes qui parlent plus que d'autres aussi. Donc, généralement, on fait un cercle par séance.
Les droits de mon regard, c'est entendu, tu parles déjà
beaucoup. Non, parce que moi, je parle de moi. Si c'est autant de séances, c'est parce que je parlais énormément.
Mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est un cercle par séance. Et puis aussi, alors, je ne me rappelle plus si c'était le cas avec toi, c'est que parfois, je reste coach aussi et que je peux identifier dans nos discussions un blocage, une peur, une croyance limitante qui bloque tout, tu vois. J'étais avec une personne ce matin en séance Ikigai, on était à la dernière séance, et il n'y a aucune activité qui est ressortie, aucune. Et elle me dit, bah non, j'ai pas d'idée, job de rêve, je vois pas. Et donc, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive, et donc, on creuse là-dessus, et donc, il y a une croyance qui revient, parce qu'elle n'a même pas le droit de rêver à un job idéal. Une personne extrêmement talentueuse, très très compétente, vraiment un très haut niveau. Et non, il n'y a rien qui vient. Et donc, on a travaillé sur cette croyance-là, cette croyance limitante-là. Je n'ai pas le droit de... Je ne sais plus exactement comment c'était formulé. Bref, on travaille là-dessus. Et à la fin, elle me dit, mais... Bon, c'est un côté perturbant, parce que quand on déboulonne comme ça une croyance limitante qui fait partie, en tout cas, on croit, de notre identité, quand on la déboulonne, on dit, OK, mais je suis qui, du coup? Ça peut être perturbant. Donc, tout ça pour dire que... Donc, on est retombé sur nos pattes, hein, je vous rassure, les personnes vont bien. Elle a réussi à switcher ça parce que c'est la dernière étape du processus. Donc, voilà, dans une séance de coaching Ikigai, on peut être amené à rencontrer ce genre de choses-là et de lever des blocages et de lever des peurs et d'aller un peu plus profondément. Parfois, il y a des choses de l'enfance qui reviennent. Enfin, on va quand même chercher dans des choses assez personnelles et profondes. Et ça ne serait pas très professionnel de ma part de passer à côté en disant « Ok, bah écoute, t'as ton ikigai, t'as tes quatre ingrédients, allez, bonne chance. » Non, parce que je sais qu'elle ne le mettra jamais en œuvre, son ikigai, tant qu'on n'aura pas identifié ces blocages-là et dépassé surtout.
Mais c'est vrai que ça aussi, à un moment, j'ai même oublié l'ikigai, moi, dans le coaching. Parce qu'on ne parlait pas que de les questions qui ont été posées là. Oui, c'était les questions dont on a parlé, mais on a parlé de beaucoup plus que ça. Pour les personnes qui feront du coaching avec Marie-Lise, sachez que l'exercice que j'ai le plus aimé, je vous dis juste, c'est l'exercice de la maison. C'est tout ce que j'ai fait. Et c'est, pour moi, ça m'a fait quelque chose, cet exercice-là. Donc, il y a d'autres exercices, en fait. Il n'y avait pas que ces quatre...
Oui, c'est ça. Pour aller vite, on a fait ça.
C'est assez révélateur, déjà. Je trouve pour un début, je trouve que c'est assez révélateur de certaines choses.
Oui, on va un peu plus en profondeur. Et c'est bien parce qu'à la fin du coaching, comme tu l'as reçu, Isadora, il y a un petit compte-rendu de tout ce qu'on a vu en séance. Alors, c'est des synthèses, bien sûr, parce que je note pas tous les mots qu'on dit. Mais en tout cas, il y a une synthèse. Et du coup, ça, on peut le garder pour la suite et s'y replonger quand on en a besoin, quand on a un petit coup de main, de dire « Ah ben oui, c'est vrai, tiens, regarde tout ce que je sais faire. Regarde qui je suis, regarde mes belles valeurs. » Et peut-être cet ingrédient-là de l'ikigai, je l'ai oublié en cours de route. Qu'est-ce que je peux faire pour... Donc, quelque part, c'est une petite trousse à outils qu'on peut garder pour soi et utiliser plus tard aussi.
Non, c'est vrai. Et alors, juste un petit disclaimer. Tu sais ce que ça veut dire, un disclaimer ?
Oui, si tu vas annoncer quelque chose.
Ouais, c'est pour dire...
Un avertissement, voilà.
Un avertissement.
Le coaching Ikigai, je l'ai offert à Isadora, je l'ai payé. Ce n'est pas une collaboration avec Marie-Lise. Hein, c'est juste que, comme Isadora a tellement aimé ce coaching Ikigai, et que vous avez bien compris grâce à cet épisode, que nous, dès qu'on découvre quelque chose et qu'on aime profondément, il faut qu'on repartage. Donc, c'est vraiment juste quelque chose de très spontané hein, que Marie-Lise, elle est là gentiment pour partager justement l'Ikigai. Nous, on le fait généreusement, mais il n'y a pas du tout de truc. Je sais que parfois, les gens...
Ah oui, oui.
Et c'est collaboration, non, pas du tout. C'est vraiment juste un partage spontané.
D'humain à humain.
D'humain à humain. C'est simplement ça. Et pourquoi
pour des humains ?
Pour des humains. Enfin, on espère qu'il y a des humains. Après, il peut y avoir des chats derrière.
Oui.
Qui écoutent aussi, ça peut être intéressant. Ikigai chat après alimentation, pourquoi pas ?
Ah, c'est moi spécialiste, mais...
Marie-Lise, mon chat est perturbé, je le sens.
On va faire son ikigai. Qu'est-ce qu'il aime ? Les croquettes au saumon.
Il cherche sa raison de vivre.
Ouais.
C'est vrai que pourquoi on a voulu faire cet épisode ? Parce que j'avais dit, c'est Dora, parce qu'à la base, on savait qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui, mais on savait pas quel angle. Et d'un coup, j'ai dit, Dora, mais est-ce qu'on partirait pas du début, enfin, comment l'ikigai est rentré dans ta vie ? Parce que nous étions totalement perdus l'année dernière, on le répétera jamais assez, mais comme beaucoup de gens aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde, depuis déjà la nuit des temps, mais aujourd'hui encore plus avec
ces
problèmes économiques, sociaux, etc.
On cherche du sens.
On cherche du sens. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ça pourrait être intéressant de faire quelques épisodes comme ça pour partager les outils qui, nous, en 2022, nous ont vraiment aidés à passer le... Vraiment, 2022, aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent sur les réseaux, vous avez vraiment changé les filles depuis, vous êtes vraiment beaucoup plus épanouies. En fait, on s'est retrouvés un petit peu, les personnes qu'on était solaires avant, que pratiquement tout 2022, on avait un peu perdu, même beaucoup. Et que grâce à certains outils, comme l'Ikigai, on a réussi... parce qu'on a écouté, on est aussi très à l'écoute de ce que nous disent toi, coach, etc. Et on a réussi pas à s'en sortir, je n'irai pas jusque-là parce qu'on n'est quand même pas non plus, on n'est pas dans des extrêmes de mal-être, mais on a réussi vraiment à se choisir, à faire les meilleurs choix pour nous et à se dire, ok, ça on n'en veut plus, ça on en veut un peu plus et ça nous fait du bien. Et du coup, aujourd'hui,
on va oser en tout cas chercher des outils parce que, Moi, avec ma personnalité, je sais que j'ai besoin très souvent d'être accompagnée. Moi, ça ne me dérange pas d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir un coach. Ça ne me dérange pas du tout.
Oui.
Au contraire, je vais plus vite, en tout cas, dans mon cheminement.
Donc, c'est vraiment un partage d'un outil aujourd'hui. Mais c'est pour surtout vous dire qu'il existe des outils. Donc, si vous êtes dans un mal-être professionnel, personnel, perdu, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être un objet, un ouvrage, qui peut vous aider, ne restez pas seul. En fait, c'est ça surtout le message. Et nous, si on peut partager ce qui nous a aidé, c'est top, quoi.
C'est vrai.
Donc, c'est surtout pour ça.
Oui. Tiens, je veux juste rajouter une petite chose, si vous permettez. si vous ne passez pas à l'action, comme tu le suggères très justement, demandez-vous quel intérêt vous avez à ne pas passer à l'action. Quel est le, ce qu'on appelle le bénéfice secondaire à rester dans cette situation-là ? Voilà. C'est juste la petite question que je vous amène à vous poser. Vous comprendrez pourquoi vous ne passez pas à l'action et ce qui se cache derrière.
Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est le genre de question qu'on ne se pose pas très souvent.
Bah, ça fait peur. Parce que pourquoi tu ne passes pas à l'action ? Généralement, c'est le regard de l'autre.
La crainte, la sécurité, le manque de sécurité. Oui, il y a plein de...
Le jugement. Oui. Ça fait peur de se le dire. Et le jugement de qui ? De ta maman, de,
tu vois,
ça veut dire beaucoup de choses, et c'est des choses qui sont très ancrées en nous.
Alors ça veut dire beaucoup de choses, mais une fois qu'on l'a mis sur le papier, du coup c'est pas une espèce de masse comme ça, voilà, de choses négatives, on sait pas quoi, j'ai peur mais je sais pas de quoi. Là au moins c'est factuel, j'ai peur de que ma mère soit pas d'accord, j'ai peur que je sais pas quoi. Et là on peut trouver des solutions, à partir du moment où on a identifié vraiment ce qu'on n'osait pas se dire à soi-même. Là, on peut passer à l'action de manière plus efficace. Si vraiment cette situation nous pèse, on a des solutions. Est-ce qu'on va les utiliser ou pas, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ça devient plus travaillable, comme on dit en coaching. Je peux agir dessus. Tandis que tant que ça reste, ah non, je sais pas, j'ai peur, je veux pas savoir, bah, on n'avance pas effectivement.
Non, c'est sûr.
En plus, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me dis, mais oui, si tu as peur, par exemple, pour la sécurité, l'argent et tout, bah, qu'est-ce que je mette en place ? Ah bah tiens, est-ce que je pourrais pas faire une épargne ?
Ouais.
En fait, oui, en soi,
en fait, c'est vrai
faut
que
définir déjà.
C'est, je pense que toujours, les choses passent par le côté... moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. C'est vrai que l'IGAI me correspondait beaucoup. C'est vrai que j'avais tout de suite pris mon carnet parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire et qui aime voir les choses factuelles parce que, parce que beaucoup de gens, quand on est dans le quotidien, on pense pas... comme dit Claudie toujours, de faire l'hélicoptère. On ne pense pas à se mettre au-dessus de soi pour voir... Parce qu'on est dans le quotidien, on est dans le go. Et je trouve ça hyper intéressant de se poser, en effet, de se poser les bonnes questions. Parce que du coup, en effet, il y a des peurs qui s'apaisent tout de suite. Alors, je ne dis pas qu'on passe à l'action tout de suite.
Non,
faux. Parce que moi, il y a des peurs qui se sont apaisées immédiatement quand j'ai compris très rapidement ce qui, moi, me faisait du mal en 2022. En revanche, avant de passer à l'action... Enfin, moi, c'est plutôt en 2021 que ça a commencé, mais... Avant de passer à l'action, il s'est passé plusieurs de longs mois, quoi. Donc, faut pas se dire, elles ont tout trouvé, etc.
Non,
pas du tout.
On y est encore. Moi, même si j'ai fait le coaching avec toi en février 2022, ça n'empêche que je reste dans l'ouverture, dans le regard de ce que je pourrais avoir comme activité professionnelle qui me donnera encore plus de sens en 2023. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais... quels ingrédients sont nécessaires aujourd'hui.
C'est ça qui est intéressant parce que justement, c'est ce truc où tu sauras maintenant et ce qu'on ne savait pas avant, c'est que si quelqu'un, par exemple, au hasard, quelqu'un te propose un projet, quelque chose, tu sauras que bah, en fait, ça ne répond pas à qui je suis, moi, dans ma vie professionnelle, ce que je veux être, en fait.
Tout à fait.
C'est être cohérent avec qui on est, être aligné et ne pas avoir cette espèce de petit pincement dans le ventre là qui dit je le sens pas, je sais pas pourquoi mais je le sens pas. Là au moins on sait ce qui manque.
Bah merci beaucoup Marie-Lise.
Oui, merci beaucoup.
Merci à vous les filles.
C'était super chouette. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu l'envie d'aller regarder, ne serait-ce que regarder sur internet ce que c'est, aller sur le compte Instagram aussi de Marie-Lise, Marie-Lise très court, vous aurez tous les liens dans l'épisode. Vous êtes à quand même des reels, des posts, etc., qui peuvent amener les gens à comprendre un petit peu plus. Des romans. On a fait quand même beaucoup. Combien t'en as fait ?
Là, je viens de terminer le 12e, mais il n'est pas encore en librairie. J'ai 11 romans et 3 guides pratiques.
Ah oui, quand même.
Et nous, on est là. Oh, impossible, on n'écrira pas de livres, ça nous angoisse. L'anxiété, un seul.
Ah mais après, il faudra qu'un jour, on se parle en off de ce truc
d'écriture.
Parce que moi, c'est quelque chose qui nous terrorise, mais je suis très admirative des auteurs parce que on est des ferventes lectrices et c'est vrai que quand je lis certaines phrases, je me dis mais comment, à quelle heure cette intrigue vous avez réussi à la je suis très admirative de ce travail d'écriture. Un jour
mais comme on disait tout à l'heure, l'important c'est le premier pas.
Oui,
l'important c'est de le décider. Tiens, et si j'écrivais un livre?
Oui, c'est vrai. Ouais,
on faut savoir écrire déjà.
Oui, c'est sûr.
Français.
Oui.
Orthographe. Grammaire, conjugaison.
Non, ça, il y a toute une équipe derrière qui s'en occupe aussi, pour pas se mettre. Donc voilà, Dora, t'as pas envie de dire au revoir.
On va dire au revoir. Au revoir, Marie-Lise.
Au revoir, les filles.
Pour ce bon moment.
Oui.
Et à très bientôt à vous dans un nouvel épisode.
Attends, avant de partir, je voulais juste dire, sur Instagram, venez nous voir et nous dire aussi en message privé quels sont vous les outils aussi qui vous ont aidé ou qui vous aident à traverser parfois des moments un peu difficiles ou de doute dans votre vie. Là, tu peux dire au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.